des contenus qui pouvaient être mis en ligne, cours, documents de travail, feuilles de route pour certaines universités, travaux ouverts personnels. Bien évidemment, on voit bien que les enseignants ne vont pas mettre des cours en ligne tout simplement pour mettre du cours comme on leur a demandé, puisque au cœur de leur interrogation, il y a ce que les étudiants pourront ou sauront faire avec ce qui est mis en ligne. Donc on a la question des étudiants, comment accompagner les étudiants, et c'est le fameux lien pédagogique maintenu à travers ce risque de pandémie. Et je passe la parole à l'animatrice de cette troisième table ronde d'aujourd'hui, Catherine Mongenet, de l'Université de Strasbourg.
Oui, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je pense que nous allons tout de suite commencer cette session sur l'accompagnement des étudiants. Il me semble que autour de cette question, faudra réfléchir un petit peu à l'articulation des problématiques d'équipement des étudiants. On a vu ce matin, et Monsieur Capul le rappelait, il y a du côté des étudiants un équipement très hétérogène, et on ne peut pas parler de pandémie et de rupture du travail sur le campus sans s'interroger sur ce problème de l'équipement des étudiants. Il me semble que le deuxième élément, c'est véritablement toute la question de la maîtrise technologique qui est très hétérogène. Ce matin, pour lancer la session sur l'accompagnement des enseignants, notre collègue nous parlait de l'hétérogénéité en matière de maîtrise technologique des enseignants, mais je pense que tous ceux qui œuvrent dans le C2I savent que au niveau des étudiants, cette hétérogénéité existe aussi, et donc si on veut avoir des dispositifs qui sont efficaces, c'est un point naturellement à prendre en compte. Et puis le deuxième problème qui était évoqué ce matin, qui est le problème de l'interactivité, se pose naturellement. Si nos universités sont fermées et s'il faut mettre en place des dispositifs de substitution, on ne peut pas se contenter de mettre de l'enseignement en ligne. Il faut que les étudiants puissent interagir avec les enseignants. Et c'est toute cette problématique de l'interactivité qui me semble être elle aussi au cœur de la discussion de cet après-midi. Il me semble qu'un point complémentaire, c'est de voir comment les pratiques des étudiants, beaucoup de nos étudiants aujourd'hui sont natifs du digital, ils ont dans leur vie personnelle beaucoup d'usages du numérique à travers des réseaux sociaux, etc. Est-ce que dans ce contexte de la pandémie, on pourrait utiliser un certain nombre de ces dispositifs pour que l'interaction ne se fasse pas juste entre l'enseignant et l'étudiant, mais peut-être entre les étudiants entre eux? Est-ce que cette question-là a un sens aujourd'hui dans la problématique d'urgence qui est la nôtre? Et puis, je crois qu'il faudra pas oublier un point qui a été évoqué ce matin. Si les établissements sont fermés, c'est qu'un certain nombre de gens sont malades, que ce soit des enseignants ou des étudiants. Et la problématique de l'incapacité à suivre quelques dispositifs de substitution se posera pour un nombre sans doute non négligeable d'entre nous, que nous soyons étudiants ou enseignants. Voilà. Alors, pour animer la discussion de cet après-midi, donc nous avons deux collègues qui ont accepté de venir partager leur expérience. À ma droite, Jean-François Meignier, chargé de mission TICE et directeur adjoint de Télé3 à l'Université de Sorbonne Nouvelle Paris 3. Et à ma gauche, Patrick Boiron, vice-président CEVU délégué, chargé de la pédagogie et des TIS à l'Université Claude Bernard de Lyon 1. Je vous propose de donner tout de suite la parole à Jean-François Meignier.
Bonjour. Comment pouvons-nous aider les étudiants à apprendre en ligne? Presque toutes les universités sont actuellement engagées dans des dispositifs d'e-learning, mais est-ce que cette action d'e-learning est vraiment pensée comme un dispositif de formation ouverte et à distance? Car les étudiants qui découvrent en fait des cours en ligne, des contenus, ils sont positionné dans la situation d'un étudiant qui apprend à distance. Alors, je voudrais essayer, en fait, de reprendre quelques éléments qui caractérisent, en fait, les dispositifs de formation à distance et qui font la force, en fait, des services de formation à distance, tout en sachant, bien sûr, par rapport à ce qu'on a vu ce matin, que par rapport au plan de continuité pédagogique, on ne pourra pas multiplier les actions de formation à distance véritablement pensées comme des dispositifs. Mais ce qui me semble intéressant, c'est d'essayer de dégager quelques éléments qui pourraient nous inspirer dans notre démarche, en fait, de conception par rapport à ce plan de continuité pédagogique. Et d'autre part, je voudrais aussi témoigner, étant donc directeur adjoint d'un service Télé3 de formation à distance, la place qu'on lui a donnée au sein de notre université dans le cadre de notre politique de développement du numérique. Alors, j'ai regardé un petit peu sur Internet par rapport aux définitions que l'on trouve sur le e-learning. Et très souvent, on définit en fait le e-learning comme un apprentissage en ligne, une méthode qui repose sur la mise à disposition de contenus pédagogiques sur un support électronique. Mais on oublie le deuxième volet en fait de la définition que donne l'Union européenne et qui me semble vraiment intéressante. L'e-learning est l'utilisation des nouvelles technologies multimédia de l'Internet pour améliorer la qualité de l'apprentissage en facilitant d'une part l'accès à des ressources et à des services et d'autre part les échanges et la collaboration à distance. Donc ces deux aspects doivent toujours en fait nous animer dans la mise en place de dispositifs, faciliter l'accès à des ressources et les aspects d'échange et de collaboration. C'est ce qui avait animé en fait l'Union européenne lorsqu'en 1991, elle avait défini les dispositifs de formation ouverte à distance, faciliter l'accès à la formation. Donc cet accès, cette liberté qu'offre l'enseignement à distance et qu'offre des contenus mis en ligne peuvent très bien dérouter des étudiants, puisqu'ils se trouvent dans une situation en fait d'apprentissage qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de connaître, étant habitués à un face-à-face avec l'enseignant. Alors, comment pouvons-nous en fait nous appuyer sur un savoir-faire des services de formation à distance qui ont intégré en fait cette problématique et dans leur quotidien savent très bien qu'il faut accompagner les étudiants. Alors, le cas particulier un peu de mon université, c'est que c'est une université de lettres, langues, arts, sciences humaines et sciences sociales et qui a un service de formation à distance, Télé 3, qui a 20 ans d'existence, qui est bien implanté dans l'université. Il y a une centaine d'enseignants qui travaillent en fait pour ce service, qui sont des enseignants-chercheurs des différentes UFR. Et avec la présidente, on a souhaité en fait faire de la formation à distance un axe majeur de notre politique de développement du numérique. Donc comment ça se traduit concrètement? Eh bien, on cherche à élargir au maximum l'offre de formation à distance. Donc ça, c'est concrètement, ça s'est traduit par une décision de notre conseil d'administration de modifier en fait la rémunération des enseignants qui s'engagent dans la conception des cours à distance. Ça, c'était un de mes premiers combats, puisque c'était un moteur de développement de l'offre de formation. Et autre élément aussi qui me semble important, c'est que on ouvre cette année de plus en plus de formations dans le panachage. Donc, qu'est-ce que c'est le panachage? C'est offrir la possibilité aux étudiants qui suivent une formation dans notre université de prendre une UE à distance. Et donc, ça casse la conception, en fait, que l'on avait des étudiants empêchés. Et justement, par rapport à cette notion d'empêché, on a aussi supprimer les justificatifs que devaient fournir les étudiants pour s'inscrire à distance. Donc une volonté politique de mettre la formation à distance au cœur du développement du numérique et à l'extérieur, par rapport à notre visibilité, on fait de la formation à distance un axe de notre politique de visibilité des activités scientifiques de l'université, puisqu'on a un portail numérique, e-Sorbonne, qui cherche à valoriser donc les colloques et les actions. Et donc, sur ce portail, on essaie aussi d'avoir une action dans le domaine du e-learning, ou bien, je vais en parler, d'accompagner aussi les étudiants à développer des compétences pour apprendre à distance. Et là, on sort tout à fait d'une activité spécifique en fait à un service de formation à distance, puisque ces émissions étant sur notre portail sont ouvertes à l'ensemble de nos étudiants et d'une manière générale, j'y reviendrai à la fin, sur le grand public et peuvent être utilisées par toutes les universités qui le souhaitent. Alors, quels éléments on pourrait tirer en fait d'un dispositif de formation à distance et qui pourrait nous aider dans notre réflexion? Ce qui me semble très important, c'est de bien intégrer le fait que même si nos étudiants sont natifs du numérique, comme on dit, le numérique pour eux, l'Internet, c'est beaucoup plus l'aspect ludique que l'aspect apprentissage ou l'aspect formation. Donc je crois que c'est pas faut pas partir de l'évidence que ils vont trouver un cours en ligne et se former spontanément. Il y a vraiment une nécessité de les accompagner. Les accompagner, c'est les éléments en fait qui caractérisent toujours les dispositifs de formation à distance, c'est d'intégrer un cours dans une plateforme. L'intérêt, la plupart des universités ça, l'ont bien compris, l'intérêt d'une plateforme, c'est qu'il y a un espace bien identifié de cours avec des espaces d'échange, avec des espaces de remise de devoirs. Donc on commence déjà à donner des outils qui vont permettre à l'étudiant de cadrer son travail. Deuxième élément très important, c'est d'intégrer en fait l'action dans un dispositif. Donc un dispositif, c'est-à-dire quelque chose qui est pensé avec un calendrier de travail, avec des échéances pour vraiment repositionner l'étudiant dans le cadre d'une formation, avec des évaluations. Donc l'interactivité à travers un simple forum, ça peut très bien tourner vite à un débat sans forcément beaucoup d'intérêt. Lorsque l'étudiant sait dès le départ qu'il aura des évaluations à rendre, des exercices à faire, qu'il sera interrogé, il est dans le processus beaucoup plus de formation. La structuration du dispositif aussi, avec les acteurs que constitue en fait ce dispositif, qui sont bien sûr bon, les tuteurs, ça j'y reviendrai, mais aussi les enseignants qui ont une charge en fait d'animation. Alors, on a des bien sûr, on ne pourra pas, en cas de pandémie, démultiplier, mais on a une organisation, par exemple, dans le service de Télé 3, de responsables pédagogiques selon les disciplines, qui sont chargés en fait de faire l'interface entre l'étudiant et l'enseignant. Donc ces responsables pédagogiques ont une mission de coordination. Et ça, ça me semble intéressant aussi à reprendre cette idée de sensibiliser quelques personnes ressources dans l'université qui dépasseront en fait le cadre simplement de fourniture de cours, de suivi, mais plus d'encadrement d'enseignants pour les accompagner et pour en fait animer leur travail. Sur le tutorat, bien sûr, tout dispositif de formation à distance est toujours très sérieusement en fait encadré par des tuteurs. On a au sein de l'université, en complément donc de l'enseignant-tuteur, des étudiants. Donc on a travaillé sur tout un encadrement en fait de ces étudiants qui perçoivent une rémunération, qui ont un contrat, qui ont une formation. Et cette année, on voudrait aussi leur proposer peut-être des possibilités de certification, puisque l'Agence universitaire de la francophonie est en train de mettre en place un dispositif de certification. D'où l'idée d'une reconnaissance. Là aussi, ça me paraît très important pour faire avancer aussi les choses sur le métier de tuteur et le rôle fondamental qu'il joue en fait dans cette relation à distance de faciliter leur reconnaissance. Autre élément aussi qu'on peut reprendre et qui va justement sur l'idée de maîtrise technologique, c'est un tutorat informatique. Alors, on a une plateforme de formation dans notre service qui, et on a des étudiants, en fait, tuteurs informatiques qui jouent le rôle auprès des étudiants qui sont inscrits, qui jouent le rôle, en fait, d'accompagnateurs pour les aider à utiliser toutes les ressources qu'offre cette plateforme. Alors, et je pense que même si nos étudiants savent bien se servir de messagerie, c'est une aide qu'ils apprécient en début de formation. Et ça, c'est vraiment une dimension fondamentale. C'est l'entrée, en fait, dans un nouveau mode de formation, l'entrée dans un dispositif de formation à distance. Comme je disais, c'est pas forcément naturel d'être dans une situation d'apprentissage à distance. Il ne faut pas rater le début. Et là aussi, on peut peut-être réfléchir sur, en cas de pandémie, sur l'impact, sur l'effort que l'on doit fournir en début de formation pour sensibiliser, accompagner. Bon, voilà les différents éléments que l'on pourrait reprendre sans forcément rentrer véritablement dans des dispositifs de formation à distance. Enfin, pour finir, témoigner aussi d'une expérience. Donc, je vous ai parlé des émissions en fait de radio que l'on réalise sur notre portail numérique. On appelait ça Radio Sorbonne Nouvelle. On fait des petites émissions de radio, donc sur le e-learning, qui tous les mois en fait traite un peu de l'actualité ou de certains sujets. Et on a eu envie cette année, avec ma collègue là, qui est dans la salle, Lisa Cox, qui est responsable donc du pôle e-campus de Télé 3. On a eu l'idée en fait de faire des petites émissions d'une demi-heure. Alors avec beaucoup de modestie, hein, c'est sous forme d'un dialogue et qui a pour objectif en fait de traiter de 8 grandes compétences qu'on a dégagées pour aider les étudiants à apprendre en ligne. Donc ces compétences, eh bien, c'est je peux vous en citer quelques-unes. C'est apprendre avec méthode, apprendre en développant sa curiosité. Se faire accompagner, c'est pas évident lorsque l'on est à distance d'accepter d'avoir un tuteur, suivre sa progression, donner du sens à son projet de formation, gérer sa formation, se donner les moyens, s'organiser, planifier, communiquer, échanger, parce que aussi paradoxal que ça puisse sembler, mais un étudiant à distance peut parfois se renfermer en fait sur le petit dispositif qu'on lui a conçu, sur ses petits outils, et ne pas sortir de là alors qu'on a tout intérêt à l'inviter à communiquer. Donc ces émissions, que l'on faisait à peu près une tous les 3 semaines, ont ponctué un peu le parcours de l'année et pouvaient être écoutées sous forme de podcast par nos étudiants ou même reçues sur leur téléphone mobile. Et ces émissions, donc, elles sont en accès libre sur notre portail e-Sorbonne. Alors, ça, c'était, je voulais souligner cet exemple parce que c'est un outil que vous pouvez utiliser. C'est l'AUF, l'Agence universitaire pour la francophonie, va en fait faire un travail d'indexation, de catalogage là, de ces émissions parce qu'ils veulent les communiquer à leur campus numérique et aux boursiers de l'AUF. Donc c'est, je vous disais, des émissions en fait toutes modestes, hein, vous n'allez pas forcément trouver des recettes miracles, mais c'est des conseils simples pour les étudiants et aussi pour elles témoignent, et je terminerai là-dessus parce que je pense que mon temps est fini, elles témoignent aussi d'une volonté politique que l'on a et c'est pour ça qu'on les met en accès libre, de sensibiliser à l'importance en fait de l'accompagnement des étudiants qui apprennent en ligne.
Merci. Je vous propose de donner tout de suite la parole à Patrick Boiron de Lyon.
Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors je vais vous présenter ce que nous effectuons dans ce domaine à l'Université Claude Bernard Lyon 1. Et je vais peut-être avoir un discours peut-être un petit peu inhabituel. Alors, il convient de rappeler le contexte local. Très rapidement, Lyon 1, c'est 35 000 étudiants, 3 500 enseignants, 13 composantes dispersées sur 14 sites. Alors, plusieurs choses ont été réalisées dans le contexte de l'éventuelle pandémie. Au niveau global, au niveau général, c'est des appels à mobilisation, à une réflexion qui a été menée tout au long de l'année. Et puis, à partir du mois de juin, on a démarré vraiment dans le concret pour commencer à motiver et appeler les enseignants à anticiper donc un éventuel arrêt des activités pédagogiques. Donc, que ce soit des courriers, que ce soit des appels divers, que ce soit la diffusion du plan global d'organisation et de continuité des activités de l'établissement, des AG, des consignes qui viennent d'être diffusées, tout ceci est dans un ensemble cohérent, progressif, qui monte en puissance. De ce qui nous concerne aujourd'hui, et dans le plan de l'UCBL en cas de pandémie, bien évidemment, il est demandé que la continuité des activités pédagogiques puisse se poursuivre en ligne, et donc sont placées sous la direction d'un directeur du service ICAP, qui est le regroupement des services SUP et TIS, et d'un VP. Et donc, le service ICAP est chargé de coordonner, de mettre en place la diffusion d'un maximum de formations en ligne. Alors, je reviendrai sur cette définition des formations en ligne. J'y reviendrai dans un petit moment. Toujours dans le contexte local, à Lyon, nous avons une plateforme pédagogique qui s'appelle Spirale, une plateforme qui contient énormément de ressources. Je place beaucoup de choses dans le terme ressources. Les chiffres qui sont cités ici, qui sont peut-être pas très visibles, sont un petit peu dépassés. On en est à plus de 500 000 fichiers qui sont dans cette base. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que l'ensemble des enseignants de notre université sont inscrits sur Spirale et utilisent Spirale à des degrés divers, naturellement, mais un peu moins de 85% des enseignants de l'université utilisent Spirale au minimum pour y déposer des documents, mais d'autres, bien évidemment, de manière beaucoup plus élaborée. Tous les étudiants sont inscrits et utilisateurs de Spirale. On a l'habitude de dire qu'il y a beaucoup plus d'étudiants qui utilisent Spirale que d'étudiants qui viennent aux examens. Enfin, on a évidemment, comme tout le monde, probablement renforcé nos capacités de connexion simultanée avec un doublement de nos capacités. On est à 3000. J'entendais le chiffre pour Paris 5 ce matin de 5000. Peut-être qu'on est un petit peu court, mais on pourra rectifier le tir si nécessaire. Bien entendu, comme beaucoup aussi d'entre vous, beaucoup des documents qui sont déposés sur cette base sont à l'origine des documents d'accompagnement de l'enseignement présentiel. Alors nous avons aussi d'autres particularités, si j'ose dire, dans le contexte lyonnais. Notre service général ICAP, qui est donc chargé de l'accompagnement pédagogique au sens large, est un service important, puisque près de 35 personnes sont dans ce service. On ne veut pas dire que 35 personnes sont mobilisables pour ce type d'activité, mais en tout cas, le service est tout à fait conséquent. Nous avons, par l'intermédiaire de ce service, une aide permanente qui est peut-être fournie aux étudiants comme aux enseignants pour prendre en main Spirale et l'utiliser. Et bien entendu, nous avons cette aide permanente physique, bien entendu, avec des formations, je vais revenir dans une seconde, mais une aide permanente en ligne qui est d'ores et déjà organisée. Lorsque nous avons également un plan de formation qui invite les enseignants à se former sur l'utilisation de cette plateforme, nous avons renforcé ce plan de formation puisque, par exemple, sur le mois de septembre, il y a 17 formations qui sont prévues. Ça veut dire une tous les deux jours, pratiquement plus d'une tous les deux jours, parfois répétées sur les différents sites. Voilà. Et également, un accompagnement qui est fourni aux enseignants pour créer de nouvelles ressources adaptées, pas simplement juste déposer des documents, mais adaptées à l'enseignement à distance ou à modifier ce qu'ils avaient déjà déposé. Donc tout ça est organisé dans un plan de formation relativement lourd. Ce qui nous reste à faire, c'est envisager l'aide éventuelle d'étudiants dans l'intégration de ressources pédagogiques. Ça, on l'a pas fait. Pour l'instant, on est plutôt en phase de réflexion. Mais c'est quelque chose qui est envisageable. Et enfin, il y a un guide qui va présenter l'ensemble du dispositif qui va prochainement être déposé en ligne. Alors, il faut voir aussi du côté des étudiants, puisque c'était une des questions qui avait été posée. Quid des étudiants qui ne sont pas équipés? Alors, nous tenons des statistiques assez régulières à Lyon 1. On a une enquête annuelle sur l'état d'équipement des étudiants. Par rapport aux chiffres qui ont été donnés pour la moyenne nationale ce matin, 20% d'étudiants sans ordinateur, si je ne me trompe pas, on est plutôt bien placé à Lyon, puisque seul, mais c'est quand même quelques centaines d'étudiants, 2,1% des étudiants n'ont pas d'ordinateur, 4,4% n'ont pas d'Internet, et 30%, ou un peu moins de 30%, n'ont pas de webcam. Alors évidemment, on attend des décisions concernant la relance du plan de l'ordinateur à 1 euro par jour qui pourrait résoudre ce problème. Le problème des connexions gratuites, ça a été également cité ce matin. Tout ceci dans un contexte d'égalité des chances. Ce qu'il faut également signaler pour nos étudiants, c'est qu'ils sont très habitués à Spiral. On a cité le digital native tout à l'heure, mais c'est tout à fait vrai. Ils acquièrent l'utilisation de cet outil de manière extrêmement, extrêmement simple. Je suis par ailleurs enseignant et j'ai accueilli les étudiants de deuxième année de pharmacie il y a quelques jours. J'ai évidemment, au moment de l'accueil, parlé de l'éventuelle fermeture en cas de pandémie. J'ai posé la question bêtement de savoir quels étaient les étudiants qui n'étaient pas à l'aise avec l'outil Spiral. Je les ai fait beaucoup rire. Je ne savais pas que j'étais si drôle en cours. Donc, il n'y a aucun souci pour les étudiants. Ils maîtrisent tout à fait cet outil. D'autant plus que un certain nombre d'étudiants arrivant en première année connaissent déjà cet outil puisqu'ils l'utilisent pour un certain nombre d'entre eux déjà au lycée. Donc pour eux, il n'y a pas de problème. Alors ce qu'il faut également signaler via Spiral, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Ça a également été évoqué dans l'introduction. Alors ceci est quelque chose qui monte également fortement en puissance. Il y a par exemple un forum VPE, vice-président étudiant, peu importe, et Facebook, qui regroupe plus de 10 000 étudiants, donc ça fait quand même plus de 25% des effectifs, avec des groupes qui sont parfois conséquents, 4 200 inscrits sur un groupe. Et donc, ces réseaux sont très actifs dans le domaine de l'entraide entre étudiants, à tel point que pour l'utilisation de Spiral, nombre d'étudiants ne viennent pas chercher à ICAP l'aide éventuellement nécessaire. Ils se débrouillent entre eux et ça se passe plutôt bien. Alors, juste quelques... C'est le sujet de la session, donc je vais en dire quelques mots naturellement. Mais j'ai pas une foule de choses à dire parce que mes préoccupations en tant que vice-président ne sont pas à ce niveau-là. Les formules d'accompagnement des étudiants existent. Elles ont été citées par mon collègue précédent. Elles sont multiples, elles sont diverses, elles sont plus ou moins complexes. Je ne vais pas les citer. Elles sont disponibles, elles sont réalisables sur l'outil Spiral, elles sont apprenables par les enseignants grâce à l'équipe d'ICAP. J'ai pas de souci vis-à-vis du nombre de techniques possibles pour accompagner les étudiants. Les seules choses qui me préoccupent, c'est que d'abord, elles doivent rester évidemment à l'initiative des enseignants. Ce sont les enseignants qui doivent les concevoir, les créer et les utiliser ou les faire utiliser. Et là, c'est là où se situe mon problème. Une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dit on a les meilleurs outils, on a tous les outils possibles, qu'on a une bonne équipe pour les faire fonctionner, que tout le monde est engagé conceptuellement pour faire fonctionner tout ça, qu'est-ce qui se passe en pratique? En pratique, il faut tenir compte de deux choses. Les habitudes, et le terme est faible, les habitudes des enseignants, ou si on dit les choses autrement, on est entre nous, on est filmé, mais on peut dire quand même les choses autrement, comment motiver les enseignants et les usages des étudiants. C'est très bien d'avoir des outils qui fonctionnent de manière superbe. S'ils ne sont pas utilisés, on a perdu notre temps. Donc, comment éviter de faire des choses inutiles? Alors, les habitudes des enseignants, je ne vais pas faire un scoop, dire un scoop ici, elles sont extrêmement variables. Elles vont de rien, de zéro, à des accompagnements extrêmement sophistiqués, presque compulsifs, où on accompagne pas à pas les étudiants. Donc, à partir de là, il est difficile de dire, donner une règle. Il faut d'abord commencer pour ceux dont l'accompagnement habituel dans l'enseignement classique, présentiel, et l'accompagnement est nul, il faut déjà commencer par convaincre nos collègues. Commencer à les convaincre, la réaction d'un certain nombre de collègues, c'est de dire « mais s'ils ne savent pas se débrouiller tout seuls, eh ben, ce n'est pas la peine qu'ils viennent à l'université. » J'entends ça tous les jours. Donc ça n'est pas admissible. Ça n'est pas admissible même en enseignement classique. Mais ça ne l'est pas plus, évidemment, en enseignement en ligne. Donc il y a déjà un effort de conviction qui n'est pas gagné d'avance. Ensuite, il va falloir effectivement les aider à concevoir, mettre en ligne, c'est ce que je viens de dire, tout ça, on est prêt pour tout ça. La seule chose, à mon avis, qu'il faut faire, il y a eu quelques intervenants ce matin qui disaient « mais nous, on a une petite équipe, on n'a pas la possibilité de faire grand-chose, etc. On peut faire des choses, on fait le mieux qu'on peut, mais bon, on ne peut pas faire des choses énormes. D'autre part, il a été signalé, mais si c'est dans 15 jours, on ne sera jamais prêt, etc. » À mon sens, pour nous, Lyon 1, qui avons les outils, qui avons le spiral et qui avons l'équipe ICAP, où tout est prêt, si vous voulez, la seule chose que nous pouvons, devons et avons encore largement le temps de faire, c'est de former les enseignants. J'entendais, je crois que c'était Pau ce matin, qui disait que sur les 700 enseignants, il y en avait 200 qui avaient été formés un certain nombre de choses en l'espace d'un mois. C'est remarquable, on en est loin de faire ça, mais ça, on peut encore le faire. En revanche, dire aux enseignants, préparez votre accompagnement des étudiants, commencez par déposer des documents, préparez-les pour faire de l'enseignement en ligne, préparez des choses pour accompagner les étudiants. Si on leur demande de le faire maintenant et de le déposer maintenant, c'est pas la peine, ils ne le feront pas. Il y a bien d'autres choses à faire. La seule chose qu'ils vont nous dire, le jour où ça arrivera, eh bien, je le ferai. Donc, fort de ce raisonnement, le jour où ça arrivera, il faut qu'ils puissent le faire. Donc, nous, notre position, notre stratégie, c'est de former. Point. Nous formons. Et nous formons à tour de bras. Et le jour où ça arrivera, eh bien, ils seront plus ou moins prêts, selon les compétences et connaissances de chacun. Nous serons là pour les... ICAP sera là pour les accompagner. Et nous ferons le nécessaire à ce moment-là. Faire avant, personnellement, j'y crois pas une seconde. Une réflexion aussi sur ce qu'on doit mettre en ligne. Plein de choses sont possibles de mettre en ligne. Alors, on a quelques expériences très avancées sur certaines de nos composantes à Lyon, et en particulier, bon, je peux citer celle-là, mais il y en a d'autres, avec Lyon Sud, Charles Mérieux, la faculté de médecine, où ils font plein de choses. Ils mettent des auto-enseignements, des auto-évaluations, des ED, etc., de toute nature, virtuelle, pas virtuelle, tout ce que vous voudrez. Quand je leur demande qu'est-ce qui marche le mieux, ben, un petit peu l'un, un petit peu l'autre, tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc, tout ça exprime bien le fait qu'il faut avoir des outils prêts à l'utiliser, avec des gens prêts à être utilisés, avec des gens enseignants prêts à les utiliser, et des étudiants qui, eux, de toute façon, vont être prêts. C'est ça qu'il faut faire. Être prêt, ça veut dire se former. Un petit détail aussi, j'ai vu passer le résultat d'une enquête sur l'université numérique hier après-midi, qui a été diffusée. Je l'ai regardé un petit peu vite fait, mais ce que j'ai vu, c'est que la demande en termes de mise en ligne de ressources n'est pas si complexe de la part des étudiants. Ils ne demandent pas des usines à gaz, ils demandent juste... 80% demandent juste des documents rédigés. C'est 80%. et 50% un accompagnement tutoriel interactif. Tout le reste, non pas qu'ils ne l'en veuillent pas, mais c'est très minoritaire. Donc ce que l'on peut leur donner est finalement relativement simple. C'est ça qu'ils demandent. Ils ne demandent pas beaucoup plus. Il faut également réfléchir aussi à... à l'habitude des enseignants de donner un calendrier de travail. J'entendais ce matin un collègue vice-président CVU qui disait il faut organiser, prévoir le timing de travail des étudiants. Fort bien. Mais quand on regarde comment travaillent les étudiants en ligne, on a une enquête également à Lyon 1. Les étudiants, si vous voulez les canaliser, les manager de manière relativement contrainte, ça va pas fonctionner. Les étudiants, ils travaillent un peu le jour, mais ils travaillent pas mal la nuit, ils travaillent le week-end et ils travaillent tout le temps. Ils travaillent tout le temps, mais quand ça leur chante. Et ces chiffres-là sont des chiffres probablement variables au niveau individuel. Si vous voulez les canaliser... parce qu'il y aura un enseignement en ligne, je pense qu'on n'est d'abord pas tout à fait dans l'esprit de la liberté de l'enseignement en ligne. On est en train de fausser le système. En revanche, qu'il y ait des choses qui soient disponibles, un rythme de travail qui soit proposé, mais en toute liberté, bon, il se trouve que dans la plateforme Spirale, on a les moyens de le faire. L'enseignant peut ouvrir, pas ouvrir, les sessions, etc. Donc ça, je ne crois pas beaucoup à ce genre de choses. La place des tuteurs, je passe très vite sur ce thème, d'abord parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais parce que honnêtement à Lyon, on n'est pas du tout mûr dans la réflexion de ce domaine. Donc pour moi, mon seul message pour nous, notre stratégie lyonnaise, c'est pas de tout préparer, c'est pas de tout faire, c'est que tout soit prêt, que tout le monde soit prêt à l'utiliser. Et le jour où la pandémie viendra, eh bien, toute cette machine se mettra en marche et les enseignants et les étudiants seront prêts à la faire fonctionner. Et enfin, dernier message en tant que... c'est pas du tout le thème, mais je vais quand même le dire en tant que pharmacien. Je ne crois pas personnellement à une fermeture de longue durée. Donc construire des usines à gaz pour des fermetures qui vont peut-être durer une semaine, 10 jours, 15 jours, ça n'a pas... Personnellement, je considère que ça n'a pas de sens. Ceci n'a pas grand-chose à voir, ce que je dis, avec la formation ouverte à distance dont vous avez parlé. Celle-là, on est très mauvais à Lyon. Sur ce sujet-là, on a quasiment pas de formation complète à distance. Donc il faut qu'on fasse un gros, gros travail. Mais ceci n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Les formations complètes à distance, ce n'est pas en 15 jours qu'on va les faire. C'est un problème de quadriennal. C'est un long, long travail. Donc ça, je n'en parle pas. Ce n'est pas du tout le sujet du jour.
Bien, merci à nos deux orateurs. Je propose que nous ouvrions tout de suite les débats. J'imagine qu'après ces deux expériences parisiennes et lyonnaises, vous avez des choses à partager avec nous sur ce sujet de l'accompagnement des étudiants. Je ne vois pas où sont les collègues qui viennent avec les micros, mais si quelqu'un parle assez fort pour... voilà. Il y a un monsieur là qui souhaiterait intervenir.
Robéjotte, Toulouse 3, Paul Sabatier. Je voudrais intervenir sur deux choses. La première, c'est, il me semble que en cas de plan de continuité, le point crucial, au-delà des dispositifs qui sont en place aujourd'hui dans un cadre d'activité normale, le dispositif crucial qui fera que notre plan de continuité pédagogique sera effectivement actif auprès des étudiants, c'est les dispositifs d'évaluation qui pourraient être mis en place. Et je pense que le gros problème des dispositifs d'évaluation qui peuvent être mis en place, donc le ministère nous incite à réfléchir dans les conseils sur ces dispositifs en expliquant qu'on peut avoir, dans le cadre de l'urgence, que la loi prévoit que l'on peut mettre en place des dispositifs alternatifs à la validation des modalités de contrôle de connaissances habituelles. Ces dispositifs, à mon avis, ne peuvent concerner, ça ne sera pas de la télévaluation, ça serait de dire dans quelle mesure des enseignements qui auraient été effectués à distance pourront faire l'objet, une fois l'activité normale reprise, d'une évaluation. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on s'inscrit. Et même dans ce cadre-là, j'imagine mal, de toute façon, même Lyon, avec ses taux extraordinaires, là, de moins de 5% finalement d'étudiants qui ne sont pas connectés chez eux, même avec ces taux-là, il en suffit d'un dans un groupe pour rendre obligatoire le fait de reprendre l'intégralité des enseignements qu'il y aura eu pendant la période de fermeture. Donc je vois mal. Alors j'aimerais savoir justement la réflexion que vous pouvez avoir là-dessus et si vous imaginez un dispositif qui ferait qu'effectivement on pourrait évaluer sur les contenus de formation qui auraient été présentés pendant une période de fermeture. Ça, c'est une première chose. Une autre chose qui n'a rien à voir, mais vous y êtes revenu un petit peu l'un et l'autre, c'est sur la production des contenus par les enseignants. Il y a quelque chose que je ne comprends pas par rapport, ça prolonge la dernière intervention d'ailleurs de ce matin, mais peut-être que je suis hors jeu, auquel cas la modératrice me le dira, c'est le problème de la rémunération. Je comprends pas complètement, je suis enseignant évidemment moi-même, mais je comprends pas complètement le problème. S'il s'agit de contenus qui sont produits dans le cadre de l'exercice de notre métier, nous sommes déjà payés pour cela. Pour moi, c'est plutôt notre capacité à le faire reconnaître, l'intégrer dans le service et dans les statuts. Je crois qu'il s'agit de cela. Il ne s'agit pas de produire des droits d'auteur avec un contenu pour lequel nous serions déjà rémunérés.
Bon, il me semble qu'effectivement, la question sur la reconnaissance dans le service statutaire des enseignants d'une activité pédagogique qui ne relève pas du présentiel est un petit peu hors du sujet de la discussion de cet après-midi. Donc, moi, je préférerais peut-être que nos deux collègues vous répondent plutôt sur le premier point.
Alors, dommage, parce que j'aurais mieux répondu sur le deuxième. Mais je vais le faire quand même. Mais sur le premier, non, on n'a pas de solution. Le problème se pose pour les étudiants de santé première année avec le concours. Et ça, pour l'instant, la question est posée. Nous n'avons pas de solution. Nous n'avons pas de solution. Un mot quand même pour la... ça va durer deux secondes. Sur la deuxième question... Je suis un petit peu comme vous. Je ne comprends pas cette position qu'ont certains enseignants de dire on va nous demander un boulot supplémentaire, donc il faut qu'on ait une rémunération supplémentaire. Ça, j'ai un petit peu du mal à le percevoir. Ça fait quand même partie, me semble-t-il, des activités des enseignants que de préparer des cours, quels qu'ils soient. Il n'a pas marqué qu'il est... Bon, peu importe. Dans le nouveau statut de l'enseignant, il y a un nouveau référentiel qui vient de sortir sur lequel les universités sont en train de plancher, puisque beaucoup de nouvelles activités sont forfaitées et doivent donc être discutées en local. Et dans ce référentiel figure l'enseignement à distance complet, donc une formation complète qui peut donner droit à une rémunération particulière ou des heures prises dans le compteur horaire ou l'innovation pédagogique. Dans le cadre de la pandémie où on a une adaptation, je dirais, ça ne figure pas dans le référentiel. Donc, à mon avis, on n'a rien à demander de plus. Mais je sais que beaucoup d'enseignants se disputent avec moi sur ce sujet-là.
Oui, sur les évaluations, effectivement, dans le cadre d'un dispositif de formation à distance, les étudiants passent l'examen en présentiel à la fin de la session. Donc il y a bien examen en présence.
Je vous en prie.
Oui, on parle des inégalités par rapport aux étudiants qui n'ont pas d'ordinateur. Moi, je voudrais souligner éventuellement les inégalités qu'il peut y avoir entre les différentes universités. Je suis toujours très admiratif quand je vois une présentation de Spirale avec Lyon 1. Je retiens aussi le chiffre associé. Vous êtes 35 dans votre cellule TIS. Quelle université de taille moyenne ou de petite taille peut aligner de tels effectifs? Est-ce qu'il n'y a pas là, dans une université dont on sait que elles deviennent progressivement autonomes. J'ai vu tout à l'heure sur le site du ministère qu'il y avait à peu près deux tiers des universités qui passaient à l'autonomie. Quelle université peut mettre en place des dispositifs aussi compétents sans une aide organisée de la part du ministère ?
Tout à fait. Je pense que cette question repose bien le problème de la mutualisation. Il me semble qu'avec l'AMU, on a su faire, bien ou mal, chacun en jugera, mais depuis fort longtemps, de la mutualisation sur des sujets qui étaient importants pour les universités à l'époque autour de l'informatique de gestion, pour faire court. Et peut-être que ce qui nous manque aujourd'hui dans nos universités et au niveau national, c'est un dispositif de mutualisation autour de toutes ces questions pédagogiques. Et c'est vrai que quelque part, on réinvente tous, chacun, nos spirales et autres dispositifs. On a même pas la velléité de mettre la plupart du temps ce type de développement en open source, ce qui serait déjà peut-être une manière de mutualiser un certain nombre d'outils sans réinventer la roue. Je sais plus, quelqu'un ce matin parlait de réinventer la roue, et c'est vrai que, enfin, personnellement, je trouve que c'est extrêmement dommageable de ne pas avancer dans cette voie-là. Et peut-être que si cet épisode de pandémie qui ne va peut-être pas vivre très longtemps pouvait au moins nous convaincre qu'il y aurait sur cette matière-là et dans notre intérêt à tous des dispositifs à mutualiser, des mécanismes à mettre en place pour mieux mutualiser nos outils, nos pratiques, eh bien on aurait peut-être gagné quelque chose, me semble-t-il.
Oui, bien sûr, mais d'après ce que je sais, Spiral est en accès libre. L'accès à vos cours, mais il existe des plateformes libres, il existe Moodle,
bien entendu, oui.
On a parlé de Docios ce matin.
Évidemment.
Mais le plan de formation, là, qui va venir le faire dans une université qui ne serait pas Lyon ? Avec quel personnel fait-on la formation ? Ils sont 35 à faire la formation. Ouais, regardez l'enquête sur les services TIS qui a été réalisée, et la plupart du temps, il y a des vacataires et pas des titulaires. Donc des personnels en CDD plutôt qu'en CDI, et puis ils sont peu nombreux.
C'est vrai.
Donc c'est vrai que cette force de frappe, moi je l'admire, je trouve ça très très bien, mais il y a une vraie carence. Et là, je voudrais mettre le doigt dessus, parce qu'il y a une source d'inégalité profonde entre les universités.
Je vais rebondir là sur la question de la formation, parce que c'est vrai que j'ai l'impression là au sein des universités que c'est pas toujours facile de former les enseignants qui, au sein de l'université, ont toujours d'autres tâches à accomplir. Donc, dans le cadre d'une mutualisation, dans le cadre d'un plan de formation national, peut-être que ça serait plus facile de faire déplacer des enseignants dans un séminaire de 3 jours que de les faire venir au sein de notre université.
Cela dit, la question de l'inégalité en matière de personnel d'accompagnement dans les universités perdurera. Donc, si une réflexion nationale pouvait aider à mettre en place les dispositifs qui sont les plus auto-organisateurs, si vous entendez ce que je veux dire derrière ce mot, peut-être que là aussi on progresserait. Parce que de toute façon, les moyens en ressources humaines vont pas de manière rapide évoluer dans les universités. Donc, plus les dispositifs permettent aux enseignants d'appréhender rapidement, sans de grands plans de formation, les choses et devenir opérationnel, mieux c'est. Et moi, je crois qu'il y a un autre élément qui peut peut-être nous aider, c'est de voir comment dans les universités on peut, à travers les nouveaux dispositifs d'emploi étudiant, proposer à un certain nombre d'étudiants de participer à des actions autour de l'accompagnement des enseignants, l'accompagnement des étudiants, le tutorat. Moi, je viens de l'université de Strasbourg. Je constate qu'il y a un nombre grandissant d'étudiants qui sont en grande difficulté pour faire leurs études dans de bonnes conditions. Donc, il y a véritablement un besoin pour ces étudiants-là, et un nombre de plus en plus important d'entre eux, d'avoir des moyens d'assurer leurs études. Si l'université pouvait utiliser les compétences qu'ils ont, et de plus en plus d'étudiants ont quand même, vis-à-vis du numérique, une certaine agilité, qui n'est peut-être pas l'agilité à laquelle on s'attend pour l'apprentissage, mais quand même une agilité qui fait que, devant l'outil, ils ne sont pas démunis, ou en tout cas, ils ont une capacité de réactivité assez rapide. Peut-être que ça serait un dispositif qui, à défaut de mettre davantage de fonctionnaires dans les universités, pourrait peut-être permettre de nous rendre plus efficaces. Oui, je vous en prie.
Françoise Galland, j'aurais surtout parlé au titre de l'association ANSTIA, l'Association nationale des services TIS et audiovisuels, pour reprendre effectivement l'allusion que tu viens faire à l'enquête qu'on a fait auprès des services TIS, avec le soutien d'ailleurs de la SDTIS, que j'en profite pour remercier, pour dire qu'effectivement, des exemples comme Lyon 1, on en rêve tous. On rêve tous d'avoir 30 personnes dans nos services TIS, mais que c'est pas le cas. Par contre, il y a quand même des progrès parce que l'enquête qu'on a fait auprès de 75 universités sur les 85 montre qu'il y a des services TIS dans toutes les universités, quelle que soit la taille de l'université ou la localisation géographique. Mais le chiffre moyen est très loin des 35 et toujours bien inférieur, avec énormément de contractuels, donc des grosses difficultés pour pérenniser et capitaliser.
Bien sûr.
Au niveau de l'association, il y a une chose en tout cas qu'on se souhaite faire, c'est essayer de mutualiser, en particulier dans le cadre de la pandémie. Il y a une chose qu'on a tous fait, chacun dans notre coin, c'est de faire des didacticiels pour des plateformes qui sont largement utilisées, pour des outils. Et donc là, je pense qu'il y aurait matière à les mutualiser. On va mettre ça sur le site et de cette façon permettre à chacun de reprendre le didacticiel qu'ont fait les autres, ce qui fait que les petits services TIS pourront peut-être profiter de ce qui aura été fait par les plus gros.
Oui, tout à fait. Très bien. Je vous en prie.
Oui, Philippe Mathieu, Université de Lille. Il y a un point sur lequel j'aurais voulu revenir, c'est le problème des formats des différents documents qui sont mis à disposition des étudiants. Alors, on n'a pas parlé du tout des formats depuis ce matin. On n'a pas non plus, d'ailleurs, sauf juste après votre intervention, juste abordé le terme de l'open source et des logiciels libres. Donc, je voudrais revenir juste sur ces points, notamment plus précisément sur les formats. À partir du moment où les étudiants sont chez eux, on se retrouve devant un inversement de positionnement par rapport à ce que l'on a habituellement. Quand les étudiants sont dans une salle de cours, le parc de machines est homogène et donc on n'a pas de problème pour communiquer avec nos documents, pour fournir nos documents aux étudiants, puisque les logiciels, c'est nous qui les installons. Quand les étudiants sont chez eux, on se retrouve devant un parc qui est hétérogène. C'est-à-dire que c'est pas le tout qu'ils aient une machine et qu'ils accèdent à Internet. Encore faut-il qu'ils aient les outils adéquats pour accéder aux différentes ressources que l'on va leur donner. Il faut donc pour cela utiliser un format qui soit accessible sur tous les types de systèmes. On dit qu'il soit interopérable avec n'importe quel type de système. Et le seul format qui permet de garantir ceci, c'est ce qu'on appelle le format ouvert. Et donc il me semble très important de sensibiliser le personnel pédagogique à l'utilisation de formats ouverts et non pas à l'utilisation de formats propriétaires pour garantir le fait que les étudiants puissent accéder aux informations. Pour être très précis, pour donner quelques exemples, je vais en donner un grosso modo dans chaque camp. Il ne faut pas évidemment mettre des vidéos en QuickTime sur sa plateforme pédagogique. Il ne faut pas utiliser des bandes son en format Apple ou il ne faut évidemment pas utiliser ce dont on entend parler depuis ce matin, c'est des PowerPoint. Les diaporamas, oui, mais certainement pas en PowerPoint parce que les étudiants ne pourront pas y accéder. Voilà.
Oui. Je pense qu'on est nombreux à partager votre remarque et qu'elle n'apporte pas nécessairement de commentaires supplémentaires. Je vous propose...
J'ai le micro.
Oui, je vous en prie.
Benamou, Paris 6.
Oui.
J'ai l'impression que il y a quand même un travail qui a été fait depuis de mutualisation sérieux.
Avec les UNT.
Qui a été fait avec les UNT.
Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord.
Qui a posé tous ces problèmes qui ont l'air d'arriver comme ça, comme une espèce de jeu de qui tombe à droite, à gauche, on ne comprend pas. Parce que la réflexion sur les formats interopérables. Ça a été le cœur de travail de l'ensemble des UNT, pas seulement celles dont je m'occupe, mais de l'ensemble des collègues qui travaillent sur ce thème. Le partage avec les cellules TIS de l'ensemble des ressources par le biais de la MU, par le biais de la mutualisation des organes de l'ensemble des établissements, ça existe. On ne va pas se mettre à réinventer. On a un système français où on a l'impression qu'on a besoin d'une nouvelle structure de mutualisation. On ne va pas encore recoller une couche de plus. Il faut trouver un moyen simplement de mieux communiquer, peut-être, parce que quand on entend ce qui est dit par des gens qui sont supposés être spécialistes, on pense qu'on n'a peut-être pas assez communiqué. C'est vrai, ce que d'ailleurs Boiron a dit, c'est que, par exemple, les étudiants connaissent peu les UNT. Pourquoi ? Parce que les enseignants ne prescrivent pas l'usage des ressources qui sont dans les UNT. La clé est là. Je pense que je prendrai tout de suite après la parole, mais je veux pas. C'est vraiment le besoin de mutualisation. On l'a ressenti. Il a été organisé par la SDTIS. il faut vraiment profiter des résultats.
C'est évident, c'est évident. Mais c'est vrai qu'à côté des UNT qui ont beaucoup mutualisé, les initiatives d'UNR, elles ont été plus délocalisées. Et puis, chaque établissement a encore son UNT. Donc, c'est vrai qu'il y a encore un dispositif qui, globalement, est éclaté.
Vous connaissez le financement des UNR depuis plusieurs années en France ? Ça a été considérable.
Oui, bien entendu. Bien entendu.
Monsieur le sous-directeur.
Tout à fait, oui, évidemment.
Claude m'interpelle. On parlera des ressources dans un moment. Il n'y a pas que des ressources à mutualiser. Il y a des outils, il y a des dispositifs. Madame Mongenet fait référence aux plateformes,
bien
etc.
Sûr, ouais.
On a beaucoup dépensé effectivement de sous pour les UNR, mais il y avait tout à faire en termes de réseaux, d'infrastructures, d'équipement des étudiants, d'accompagnement des étudiants, etc. J'ai retenu votre proposition de réfléchir à un dispositif de mutualisation pour aller au-delà, et c'est bien le prolongement peut-être des actions des UNR ouais. qui est en jeu derrière ces questions. Mais pour les ressources, nous y reviendrons dans quelques instants. Évidemment, la mutualisation existe et est très bien faite depuis longtemps.
Il y avait un collègue qui voulait intervenir.
Oui, je voulais répondre à mon collègue de Lyon, là, à Paris 12. Nous n'avons pas du tout essayé d'être normatifs en cadrant tous nos étudiants, les horaires, en disant c'est telle heure à telle heure, etc., etc. Non, l'idée derrière ces fiches de liaison, c'était simplement à but pédagogique. D'abord, on s'est placé aussi dans le cadre, si vous voulez, du premier cycle, où c'est là que les problèmes vont se poser. Le plan licence, on a voulu mobiliser les enseignants référents qui existent à Paris 12, en tout cas pour le L1, et qui seront rémunérés pour ça. Donc on a sauté un peu sur l'occasion en disant, bah, puisqu'ils vont être rémunérés, ils auront un rôle particulier si la pandémie arrive. Donc ça, c'était le premier élément. On voulait aussi rappeler aux étudiants qu'est-ce que c'est qu'un volume horaire. Il ne faut pas oublier que le LMD, 30 CTS, c'est tant d'heures, et donc 30 heures, c'est... 30 heures de présentiel ou chez eux, s'ils ne veulent pas assister aux cours. On sait très bien qu'il y en a la moitié qui sèche les cours, c'est pas une nouveauté. Mais par contre, s'ils restent chez eux, ils doivent faire les 30 heures que le prof leur a fait en présentiel, ils sont pas venus, plus les 30 heures de travail personnel, s'ils veulent réussir leurs études. Donc on voulait quand même rappeler que pour réussir ces études, il faut beaucoup de travail personnel, quelle que soit la méthode qu'ils vont employer. Donc, qui travaille le dimanche ou le samedi, à la limite, s'ils s'organisent bien, on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Voilà. Mais on voulait aussi inciter les professeurs à leur donner le maximum d'éléments pour qu'ils puissent effectivement faire cet auto-apprentissage. Donc, on n'est sûrement pas normatif, hein, qu'on se mette bien d'accord là-dessus. Voilà.
Ouais. Problème, j'ai bien compris.
Oui. Le collègue en haut, s'il vous plaît.
Oui, bonjour. Jacques Carpentier, directeur du service universitaire d'enseignement à distance de l'Université Rennes de Haute-Bretagne. Et d'autre part, je vais m'exprimer cet après-midi au nom de la FIED, Fédération interuniversitaire d'enseignement à distance. Je voulais simplement dire ici à l'ensemble des participants que la FIED existe depuis la fin des années 80 et que c'est sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur que le dispositif d'enseignement à distance a été développé. Et d'ailleurs, la semaine dernière, le conseil d'administration s'est réuni et donc a fait des propositions. Je sais que quelques collègues de la FIED participent aux travaux de la SDTIS. Je voulais dire aussi que si je suis directeur d'un service universitaire d'enseignement à distance, c'est parce que mon université est une université de langues, sciences humaines et sociales, et donc il n'y a pas que des sciences tout court, et que depuis, mon service accueille 1100 étudiants, et ces étudiants-là, bien sûr, veulent suivre des cours parce qu'ils sont quelque part empêchés d'assister en assidu à des cours que les autres, bien sûr, ont régulièrement. Et pour ces étudiants-là, donc avec d'autres universités qui ont rejoint la FIED, nous sommes actuellement 34 universités dans ce dispositif, eh bien, nous avons développé tout un dispositif dont parlait tout à l'heure Jean-François Meunier, c'est bien cela. Et j'ai trouvé que vos propos étaient intéressants, notamment au niveau de dispositifs d'accompagnement. Car dans notre université, il y a un certain nombre d'enseignants de plus en plus jeunes qui mettent à disposition de leurs étudiants des cours sous la forme PDF, qui les mettent sur une plateforme et ensuite ils communiquent via le courrier électronique. Mais vous allez voir que ce n'est pas suffisant. Et puis il y a, en ce qui concerne mon service, un certain nombre de disciplines, administration économique et sociale, psychologie, etc. Et nous devons produire des contenus spécifiques pour ces étudiants-là. Par exemple, nous travaillons en collaboration avec l'Université de Rennes qui, dans un dispositif qui s'appelle CIRM, a mis en place une chaîne éditoriale. Nous utilisons en effet cette chaîne éditoriale qui sert à quoi ? Eh bien, ça sert à faire reconnaître l'ensemble des enseignements ou des contenus, car il faut bien sûr que tous ces contenus soient connus par un système d'indexation, ORI, OAI, etc. Je ne vais pas tomber ici dans le jargon technique. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous accueillons avec ou sans étudiants, nous formons des enseignants. Ces enseignants sont aidés, suivant la technicité du cours à produire, par des ingénieurs pédagogiques qui vont plus ou moins sophistiquer le contenu du cours en mettant de l'accompagnement vidéo ou audio. Et puis nous avons aussi un dispositif de tuteurs qui sont issus de masters. Dans mon service pour 1100 étudiants, j'ai 11 tuteurs. Et ces tuteurs, bien sûr, comme le rappelait tout à l'heure Jean-François Meynier, eh bien, sont formés pour avoir des compétences dans l'accompagnement des étudiants. Et j'ajoute d'ailleurs que ce que citait Jean-François Meynier est tout à fait intéressant. Les cours de Radio Sorbonne à ce sujet méritent d'être sans doute étudiés, suivis avec profit, car tout le monde pourrait se faire ici une idée plus précise de ce qu'est l'enseignement à distance, au sens où nous avons besoin d'un accompagnement et non pas simplement d'un dépôt de devoirs. Donc, dans le cadre du plan pandémie, l'université de Rennes 2, en quelque sorte, est prête, mais on ne pourra pas répondre à toute la demande si jamais l'université est complètement, vidée de ses étudiants, car nous pourrons répondre, bien sûr, avec le service que nous avons, le service du CRI, eh bien, une demande simultanée de 500 étudiants, à peu près, mais il sera difficile de gérer un public plus nombreux.
Oui, voilà ce que je voulais dire. Ce d'autant que très probablement de nombreux enseignants de Rennes ne sont pas familiers avec les dispositifs que vous utilisez dans l'enseignement à distance et que la chose va être compliquée. Moi, il me semble que on s'éloigne un petit peu du sujet du séminaire d'aujourd'hui, qui était comment est-ce qu'on accompagne les étudiants si demain nos universités sont fermées. Donc, oui. Bien entendu, nous avons dans nos établissements des dispositifs divers, de plateformes pédagogiques, de filières d'enseignement à distance. Tous ces dispositifs-là, ils contribuent à un accompagnement spécifique des étudiants, mais si dans 15 jours on est dans une situation où effectivement nous devons fermer les universités, ces dispositifs-là ne pourront pas être généralisés à l'échelle de l'université, sans parler des universités qui éventuellement ne disposent pas de certains de ces dispositifs. Donc il me semble qu'on est face à une difficulté qui ne peut pas forcément se résoudre par l'utilisation des dispositifs dont nous disposons et pour lesquels la généralisation à une population d'enseignantes bien plus importante et à une population d'étudiants également plus importante devra se faire jour. Quelqu'un ? Oui.
Oui, toujours, ensuite, toujours Philippe Mathieu à Lille. Oui. L'un des outils qui me semble intéressant et dont mon collègue de Lyon a parlé tout à l'heure, c'est les systèmes de réseaux sociaux, fidèle à mon habitude, pour peu que ça soit des logiciels libres et qu'ils soient installés au sein des universités, c'est en tout cas quelque chose qui a grâce à mes yeux et qui me semble intéressant pour communiquer avec les étudiants. Alors j'ai une question qui est très très courte. Avec les systèmes de réseaux sociaux, se pose le problème de la surveillance des contenus, puisque c'est les étudiants qui décident de ce qu'ils vont pouvoir mettre sur leur page. Qui est responsable des contenus ?
Est-ce que j'ai le droit à un joker ? Je pense que... Comment ?
Ça me rassurera, le joker,
quelque part. Bien sûr. Quelqu'un souhaite répondre sur cette question qui est évidemment hautement problématique pour les universités et leurs services informatiques. Vous voulez intervenir sur cette question ? Très bien, et puis après on donnera la parole à notre collègue. Après ?
En l'occurrence, sur tout ce qui va toucher en fait à des réseaux sociaux ou en fait à des blogs ou autres, c'est quand même l'auteur qui est responsable des choses, oui, mais... qu'il va mettre à disposition. Et après, s'il va piquer des choses ou s'il va enregistrer un cours dans un amphi avec un dictaphone ou autre, c'est une responsabilité qui devient de l'ordre plutôt du civil.
J'ai cru comprendre que notre collègue disait dès lors que ces réseaux sociaux sont en interne à l'université. Ah. Et donc la question de la responsabilité de l'université me paraît très clairement engagée.
Oui, et là, clairement, oui, on est engagé. À partir du moment où on met en place un système de réseaux sociaux dans l'université, effectivement, on est responsable. Et au même titre, dès lors que l'on met un forum, un blog ou autre. Et sur une plateforme d'enseignement à distance de type Moodle... Il y a un blog, enfin un forum qui s'ouvre automatiquement. Si l'enseignant n'y fait pas forcément attention et qu'il laisse poster les étudiants, ça peut avoir des conséquences assez importantes pour lui.
Oui, la question de savoir comment l'université s'organise pour maîtriser tout ça est une question qui n'est pas forcément évidente. Vous voulez intervenir ? Non.
Non. Alors, finalement, ce qui vient de se dire fait que l'idée que j'avais peut être caduque, mais il me semble, j'ai entendu des collègues, en particulier d'universités moins bien fournies que Lyon. Je sais qu'on est tous en admiration de voir ce que fait Lyon, mais on ne peut pas faire la même chose. Est-ce qu'il ne serait pas possible, et à l'issue aussi de conversations que j'ai entendues ce midi, d'avoir, à l'issue de cette réunion d'aujourd'hui, une réunion peut-être plus d'ateliers, de mise en commun de travaux qu'on pourrait partager, mais quelque chose de vraiment concret. Parce qu'il me semble qu'il y a quelques frustrations qui s'expriment et tout le monde ne pourra pas faire face tout seul. Alors actuellement, l'impression que j'ai, c'est qu'on demande à chaque établissement de voir comment, dans son établissement, il peut mettre en place les choses. Certes, mais on peut peut-être partager un peu plus et à l'échelon universitaire national. C'est une idée qui me vient comme ça à l'issue de ce que j'ai entendu.
Je peux peut-être répondre à votre question. J'attendais la clôture, mais je peux donner des éléments avant la clôture qui ne durera pas trop longtemps. C'est effectivement l'idée que nous avons modestement, peut-être pas d'organisation d'ateliers, parce que ça peut être aussi organisé au niveau des UNR, par exemple, ou des lieux des grandes villes universitaires. Mais sur le portail du ministère et des UNT, Université Numérique, nous souhaiterions ouvrir une rubrique, alors on ne sait pas si on l'appelle préparation à pandémie, boîte à outils, etc., où toutes les outils, dispositifs, tutoriels, didacticiels que vous estimeriez intéressants de porter à la connaissance de vos collègues seraient référencés et nous renverrions sur le site de vos établissements où sont ces outils. On va même, nous, à l'ESDETIS, en provoquer la création de certains. J'en reparlerai à la fin. Mais c'est effectivement tout à fait prévu d'avoir cette rubrique. Alors après, est-ce qu'on va plus loin en termes de liste de diffusion avec tous les collègues qui sont ici ? C'est quelque chose que nous allons regarder. Mais une mutualisation à minima des outils qui peuvent être transférables, transposables à d'autres établissements qui ne sont pas très fortement liés à des développements internes.
Très bien. Oui, je vous en prie.
Mohamed Senadi, vice-président étudiant de l'Université de Bordeaux 2 et secrétaire général de la conférence des étudiants vice-présidents de l'université. Moi, je voulais pas réagir lors des ateliers de ce matin et je voulais attendre un maximum de réactions après l'atelier de l'accompagnement des étudiants. Et en fait, ça confirme un peu la déception que j'ai eue, c'est le manque d'implication des étudiants dans ce genre de séminaire. On est en train de faire... ce qui se fait actuellement, c'est ce que faisaient les sociétés de création de logiciels il y a une quinzaine d'années. J'en ai déjà parlé à Mme Mangenet. C'est on est en train de concevoir des systèmes en se mettant à la place de ceux qui vont les utiliser. Et nous, même nous, étudiants qui sommes en fin de cycle, on est incapables de prévoir comment des étudiants de 15 ans vont gérer un système informatique. Quels sont les raccourcis qui vont... Les parcours, c'est vrai que c'est ma formation qui fait ça, mais les parcours cognitifs qui vont permettre de naviguer ou d'utiliser un système. Et en fait, ça revient un peu à dire qu'on est en train de mettre en place des systèmes, des ENT, des outils pour diffuser de l'information, alors qu'on ne connaît même pas les parcours d'information qu'utilisent des étudiants actuellement. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu. Il y a pas d'étudiants aujourd'hui qui peuvent vraiment réagir par rapport à tout ce qui a été dit. Deuxième point, c'était un peu par rapport à ce que disait Monsieur Boirand de Lyon, c'est l'émergence de ces réseaux sociaux, Facebook et compagnie. c'est des systèmes qu'on ne contrôle pas. Et le problème de ces trucs-là, c'est que même maintenant, quand on a des systèmes d'information qui ne sont pas corrects, les étudiants récupèrent l'information sur... ou plutôt, on désigne un étudiant qui va récupérer l'information là où il faut, et il va la mettre ailleurs, à un endroit qui n'est pas légal, plus ou moins, pour que tout le monde puisse y accéder. Et en fait, tout ça parce qu'on est... On gère les étudiants comme des consommateurs. Certes, on est dans une société de consommation. Le problème, c'est que les étudiants, dès qu'ils voient quelque chose, c'est du one shot, quoi. Si la première fois, ça leur plaît pas, c'est hyper difficile de les pousser à réutiliser le système. Donc, moi, je pense que l'implication des étudiants, faut qu'elle soit vraiment dans la conception des systèmes d'information qu'on va leur proposer. Parce que, si on n'arrive pas à avoir un peu leur vision et leur retour d'expérience du système, on risque de développer des choses, de mettre beaucoup de moyens sur la table pour arriver à des systèmes qui ne fonctionnent pas. J'ai vécu ça il y a 2 mois dans mon université. On est venu me présenter l'UNT. Il n'y a eu aucune concertation avant. Et malheureusement, les étudiants n'aiment pas. Et du coup, les étudiants, s'ils n'aiment pas, ils n'iront pas à l'utiliser. Mais je pense qu'il y a une réflexion à faire sur comment impliquer les étudiants dans la conception de vos systèmes. C'est vrai que je suis un peu long, mais j'ai attendu un peu toute la journée. Il y a aussi le fait que c'est vrai qu'on dit qu'on est étudiant, on a un turnover énorme, on a des élections tous les 2 ans. On fonctionne pas tous de la même façon, on n'a pas tous l'attrait pour tel ou tel sujet. C'est vrai que moi, Laetitia, je m'en occupe parce qu'au niveau national, on est en train de mener une enquête sur les écarts entre les services proposés par les universités et les usages qu'on font les étudiants. Normalement, les résultats sont pour mi-octobre, qu'on mène avec la conférence des étudiants de vice-président université. Et en fait, moi je dis, ou ce que je vous propose, c'est si vous avez des personnes qui peuvent comme ça, des étudiants qui sont motivés pour vous donner un coup de main sur la conception des systèmes d'information que vous voulez mettre en place dans vos établissements, n'hésitez pas à les impliquer. Je ne dis pas qu'il y en aura tout le temps, mais s'il y en a, utilisez-les.
Moi, il me semble que de nombreuses universités sont en train de réfléchir à leur schéma directeur numérique ou leur schéma stratégique numérique, et que dans toutes ces universités où ce travail commence à se faire, la place des étudiants est évidente, c'est bien certain. Allez-y, et je pense que ça sera peut-être la dernière intervention.
Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et d'ailleurs, nous favorisons énormément la participation des étudiants dans la création des produits, des ressources pédagogiques, au travers de stages, au travers donc de certaines formations. Donc c'est aussi un des moyens, justement, d'avoir ce contrôle. D'autre part, on a quand même les systèmes d'évaluation dans les universités et qui... année par année nous donne les retours sur la qualité de l'ensemble, la qualité des cours, la qualité des ressources, etc. Et donc les observations écrites d'ailleurs sont rapportées à tous les enseignants, et ceci nous permet aussi de corriger les polycopiés et toutes les ressources. Donc effectivement, c'est un point très important qui nécessite une évaluation rigoureuse. Voilà. Je crois que c'est tout.
Très rapide alors, très rapide. Un collègue juste derrière.
Oui, pour parler de l'implication des étudiants, encore une fois, dans la construction des dispositifs. Tout à l'heure, je vous ai présenté Jalon. En fait, on a monté en même temps, parce qu'on était un peu submergé des demandes, justement, pédagogiques, hein, donc, et qui avaient une incidence sur la technique. On a construit un comité de pilotage dans lequel il y a un représentant par UFR, et un vice-président étudiant qui discute des évolutions. Mais alors qui discute pas dans le vide, qui discute par rapport à l'ensemble des remontées que peut faire la communauté. Et donc nous interrogeons régulièrement, n'importe qui peut s'exprimer, public enseignant, personnel IATOS et étudiant, sur les évolutions qu'il souhaiterait voir venir dans ces dispositifs, ce qu'il lui manque. Et ces évolutions-là sont chiffrées par le service TIS, en fait, en quelque sorte, chiffrées en nombre de jours, et ensuite priorisées par le comité de pilotage et planifiées sur l'année. Ce qui fait qu'on a une roadmap, hein, j'aime pas les anglicismes, mais voilà, une roadmap, une carte de route qui nous permet de savoir où on va, de prévoir les évolutions et surtout d'être à l'écoute des utilisateurs.
Bien, merci beaucoup. Peut-être que pour conclure cette séance sur l'accompagnement des étudiants, le mot de la fin, c'est bien de se dire que si on fait tout ça, c'est parce qu'on a le souci des étudiants et que naturellement, écouter les étudiants et les impliquer dans nos actions, c'est sans doute la meilleure manière de construire des choses utiles, efficaces et performantes. Voilà, je vous remercie et je suppose que nous passons tout de suite à la session suivante.
Tout à fait. Bon, j'appelle les intervenants suivants. Merci Catherine. Donc, Monsieur Alain Collat, qui est chef adjoint de la mission Information scientifique et technique et bibliothèque, va animer le débat avec Albert-Claude Benamou et Madame Le Trouilly du Centre commun de documentation. Avant que le quatrième thème soit abordé, je souhaiterais faire une petite intervention sur deux points. La question des ressources numériques, de façon générale, vue par le ministère, et peut-être très rapidement quelques mots sur l'exception pédagogique, puisque ça a été évoqué notamment en fin de matinée ce matin. On a vu ce matin que mettre tous les cours en ligne allait être certainement un mot d'ordre irréaliste, si jamais le ministère souhaitait le préconiser aux enseignants. On a vu aussi par certaines de vos interventions que ça pouvait même être pédagogiquement pas du tout pertinent. On ne retrouvait pas forcément en ligne le même type d'activité pédagogique avec des cours. On a vu aussi dans les réponses que les établissements ont fait que beaucoup souhaitaient utiliser des ressources numériques déjà existantes pour que leurs enseignants proposent des activités pédagogiques à partir de ces ressources. Eh bien, le ministère, c'est la démonstration de ce matin et aussi des réponses que vous aviez faites, le ministère, depuis quelques années, a quand même, avec les universités numériques thématiques, proposé la mise à disposition, variable selon les disciplines, évidemment, il y a des unités plus anciennes que d'autres, mais la mise à disposition d'un maximum de ressources pédagogiques, et dans certaines disciplines, le cursus est entièrement couvert par les ressources numériques. Aujourd'hui, très peu de NT donnent un accès direct aux UNT pour lesquels leur établissement a adhéré. Je me laisse de côté la question de l'adhésion. On va peut-être essayer de susciter des adhésions plus fortes dans cette période de pandémie. Mais en tout cas, pour les universités déjà adhérentes d'un certain nombre d'UNT, il est dommage que la référence et le lien ne soient pas immédiatement établis à partir des UNT. C'est un des points importants à développer. Donc le ministère a mené des actions toujours importantes en consacrant un certain nombre de moyens à cette production et à cette valorisation des ressources disciplinaires existantes. Il faut peut-être maintenant aller plus loin. Il y a d'autres ressources qui existent dans les établissements. C'est un des débats que nous allons pouvoir aborder maintenant avec les ressources documentaires par ailleurs. Le petit point sur l'exception pédagogique est le suivant. Nous négocions avec les éditeurs pour le scolaire et pour l'enseignement supérieur. Où on en est aujourd'hui? Nous avons reconduit pour l'année 2009 les accords dits sectoriels qui avaient été signés par le seul ministère, parce qu'il y avait un seul ministère en 2006, concernant les 5 types d'œuvres, presse, écrit, musique, audiovisuel, etc. Ces accords ont été reconduits pour 2009 et nous sommes en train de discuter, notamment avec des collègues juristes qui représentent le ministère, face aux éditeurs, pour réviser assez profondément, nous l'aimerions, en tout cas, cette exception pédagogique, qui pour l'instant dit la chose suivante: vous avez le droit d'utiliser dans un cadre pédagogique strict des extraits d'œuvres. Avec cette exception pédagogique, vous n'avez pas à demander des droits et le ministère prend en charge la compensation financière vis-à-vis des ayants droit et de leurs représentants. Évidemment, tout le débat portera sur l'étendue plus ou moins grande de ce qu'on appelle un extrait. Et les éditeurs sont extrêmement sensibles et vous en avez une démonstration tous les jours avec tout ce qui se passe sur la loi Hadopi. Les éditeurs de l'écrit, notamment, les éditeurs juridiques en particulier, sont extrêmement virulents pour obtenir, avec en plus l'aide du ministère de la Culture, une position de force dans une négociation avec le ministère de l'Enseignement supérieur ou le ministère de l'Éducation nationale. Donc il n'est pas certain qu'on obtienne des conditions encore plus intéressantes, qui iraient peut-être dans le sens de la directive, mais en tout cas la France a négocié avec les ayants droit des conditions un petit peu plus strictes. Donc la théorie est la suivante. C'est le droit, c'est-à-dire qu'on doit respecter ces accords et ceux qui seront mis en place et discutés dans les mois à venir. Maintenant, et c'est ce que nous disons aux éditeurs, il y a la réalité du terrain, le fait que l'on ne peut pas être derrière chaque enseignant et que s'ils étaient un petit peu trop exigeants, eh bien, on ne garantit pas qu'il n'y ait pas un usage très sauvage de ressources de leurs fonds éditoriaux et de leurs ayants droit. Voilà, donc on est encore en train de discuter pour essayer d'ouvrir un petit peu plus le champ de l'exception pédagogique en termes de dimension d'extrait. Je vous rappelle qu'en cours de langue, si vous voulez montrer un extrait de film, c'est impossible. Si vous voulez faire écouter un morceau de musique, vous ne pouvez pas dépasser quelques secondes, 30 secondes, je crois, de ce morceau de musique. Donc c'est des choses assez hallucinantes lorsqu'on les présente comme ça. Mais il y aura des accords avec les ayants droit qui devront normalement être respectés. Voilà. Je passe la parole à M. Collat et à nos deux invités.
Bien. Donc après les outils et les infrastructures, donc, et également après la question des usagers au sens large, au sens large des enseignants à l'étudiant, donc on va aborder donc ici la question tout aussi essentielle des contenus. Donc pour en parler, il y aura une première intervention avec Albert-Claude Benhamou, donc en abordant la question d'un point de vue couverture plutôt disciplinaire. Une deuxième intervention par Carole Le Truitt, avec une approche plus question d'accès à distance, si je ne me trompe pas. Alors, juste quelques mots pour introduire ces interventions. Donc, d'abord, pour ce qui est des bibliothèques universitaires, un domaine que je connais un peu mieux, je dirais qu'en matière d'accès à distance, à la documentation numérique, nous sommes plutôt là dans une sorte de prolongement d'une des activités traditionnelles des BU. De tout temps, la bibliothèque a prêté des livres, et même plus largement sur le plan national, a organisé tout un système de prêts entre bibliothèques. Donc la question de l'accès à distance, me semble-t-il, est un prolongement. Bon, pour autant, nous sommes là dans le domaine, avec la documentation numérique, de ce qu'on appelle communément la bibliothèque virtuelle, cette bibliothèque hors les murs, qui participe dans un certain sens à une sorte d'utopie récurrente dans les universités, et qui finalement est plutôt une bonne chose, puisque ça vient de temps en temps secouer le monde des bibliothèques. Alors de fait, les BU ont bien pris le virage du numérique. Je donnerai juste un chiffre pour ne pas rentrer dans les détails. En 2007, il y a eu 40 millions de documents téléchargés. Et 40 millions, c'est certainement en dessous de la réalité, dans la mesure où beaucoup d'éditeurs ne fournissent pas toutes les statistiques. Si on met ça en rapport avec le nombre de livres prêtés, c'est-à-dire 13 millions, et d'année en année, un chiffre qui baisse, on voit bien que ce virage a été pris, et de l'autre côté, que les étudiants, peu à peu, s'emparent de cette documentation. Alors, pour une autre particularité, je pense qu'il faut garder en mémoire dans la question de l'accès à distance pour ce qui est de la documentation numérique, c'est que cette documentation, pour la plupart, est fournie par des éditeurs privés. Donc, on parlait de la question du rapport avec les éditeurs. Cela veut dire qu'en cas de pandémie un peu longue, tout plan qui concernerait la généralisation de l'accès à distance à cette documentation numérique devra faire l'objet d'un dialogue fourni avec ces éditeurs, des éditeurs qui seront des partenaires à part entière, bien sûr. Alors, sur la question de la documentation pédagogique, alors je ne ferai pas une introduction un peu générale comme ça, mais juste une insiste très personnelle, et vous m'en excuserez. Il se trouve que j'ai ma fille qui est rentrée en première année de pharma hier, Paris 5, dans son discours introductif, la doyenne, évidemment, a parlé de pandémie. Et non pas pour paniquer l'amphi et les étudiants, mais plutôt pour les rassurer, en leur précisant que ces premières années avaient beaucoup de chance, puisqu'ils auront tous les cours en ligne en cas de pandémie. Voilà. Donc, merci. Je passe la parole à Bert-Claude Benhamou sur ce sujet.
Merci de me donner la parole. Je pensais que la doyenne allait dire qu'il fallait éviter de s'embrasser et avec un masque peut-être, ou alors vraiment de manière très virtuelle, avec un guidebot qui fait en plus du bisou, d'autres choses. Mais en l'occurrence, merci de me donner la parole ici au nom de l'ensemble des universités numériques thématiques. Certes, comme vous le savez, c'est peut-être le privilège de l'âge, La médecine a initié ce processus, mais on a très vite été suivi par les collègues des sciences de l'ingénieur et des technologies, par les collègues juristes et progressivement par tout le monde et par l'ensemble des grands ensembles de l'enseignement supérieur thématique. Alors la question qui nous est posée, c'est celle de la réponse aujourd'hui au risque de pandémie, et c'est-à-dire d'une adaptation brutale la demande de ressources d'enseignement à l'offre existante. Et alors c'est l'occasion de dire que finalement, avec l'organisation des qui anticipait presque cette éventuelle pandémie grave qui risque de conduire à la fermeture des établissements, eh bien on a peut-être imaginé le système qui permettrait, de manière modeste mais certaine, d'assurer la continuité de l'enseignement supérieur avec une espèce de fonds national de ressources numériques de l'enseignement supérieur thématisé par niveau d'études. Parce que finalement, il faut être pragmatique et répondre à la demande d'un étudiant. Un étudiant, c'est qu'il ait des ressources de travail cohérentes avec son programme pour passer un examen ou un concours et lui donner le maximum de chances pour atteindre les objectifs de la sanction diplômante. Ça, c'est fondamental. Donc, il ne faut pas les perdre dans un océan de ressources numériques qui existent dans Google. Si vous tapez, par exemple, faites l'expérience, infarctus du myocarde, sujet pour passer le concours de l'internat en médecine, sur Google, vous avez 3 millions ou 5 millions de ressources disponibles instantanément. Un étudiant ne peut pas se satisfaire de ça. Il a besoin d'un cours, d'un outil de travail, avec toutes les caractéristiques fonctionnelles, les meilleures possibles. Alors, en soi, la bonne ressource, c'est ça qui nous intéresse. Alors, au nom de qui, de comment peut-on être légitime pour faire un fonds national de ressources d'enseignement dans toutes les disciplines? Donc, nous avons travaillé sur le concept de la légitimité qui vient de qui vient de nos structures, de nos pilotes, les présidents d'université, les doyens des UFR, et finalement les communautés enseignantes en charge de l'organisation de l'enseignement, de la distribution de l'enseignement, donc les communautés qui sont plus ou moins organisées suivant les thématiques. Alors en médecine, on est, et puis également dans d'autres disciplines, il y a quand même des collèges nationaux qui réunissent tous les sachants, tous les savants, et qui donc sont eux qui font les programmes, et là ce qu'on leur demande, c'est de faire les solutions, pas seulement les programmes, mais de donner la réponse. On doit apprendre ça et ça en première année de médecine, en troisième année de mécanique, en cinquième année de pharmacie, etc. Donc voilà comment on a réfléchi. Et donc avec la conférence des présidents d'université, avec les collèges nationaux d'enseignement, nous avons fait notre travail de réunir les communautés pour aboutir à des décisions communes et à des contenus communs. Des référentiels, en gros. Alors c'est compliqué de faire des référentiels, mais on peut y arriver. Et puis il y a finalement des gens qui disent « c'est bon ». Et puis j'ai entendu tout à l'heure le risque d'uniformisation avec les référentiels. Je suis un tenant du... L'Internet, c'est pas le monde du « où », c'est le monde du « et ». Et vous pouvez avoir les 15 méthodes pour apprendre l'anglais en ligne, dans une échelle, vous allez choisir la meilleure méthode. Et c'est finalement, on redonne à l'enseignant le rôle de maître, c'est lui qui décide de la méthode et qui va dire, et donc d'où la nécessité du lien avec les étudiants, c'est de leur dire, voilà, vous travaillez sur telle méthode, vous êtes avec moi, je suis le professeur un tel, je ne veux pas que vous appreniez autrement qu'avec cette méthode. Donc vous recréez votre lien pédagogique déjà en donnant la méthode de travail. Et donc c'est un peu la possibilité, et c'est donc ce que nous avons fait. Alors je réponds, je ne veux pas m'étendre parce que je peux être trop long, je voudrais en même temps répondre à la commande. C'est avec ces ressources, toutes les disciplines, toutes les thématiques nationales, comment, en cas de pandémie, donner un renseignement unique à tous les étudiants de France et comment leur permettre un accès égalitaire à toutes les ressources ou celles, le maximum de ressources qui sont disponibles aujourd'hui en France, libres d'accès en ligne de bonne qualité. Donc le ministère, la sous-direction, Catherine Fabreguette et ses collaboratrices, Marion Houdoubert, ont fait le travail, et c'est sous l'impulsion de Jean-Yves Capule, de dire il faut un portail national qui existe. On a vu dans la presse se répandre l'idée qu'on allait tout mettre sur Canalu. C'est un peu comme ça que je me suis dit, j'ai lu ça dans Paris Match, qu'en cas de pandémie, on allait avoir toutes les ressources d'enseignement sur Canalu. Canalu, c'est formidable, monsieur Lièvre, c'est formidable, c'est vrai. Mais c'est pas l'outil de travail pour un étudiant en première année de telle ou telle discipline. C'est un outil complémentaire qui peut être prescrit par un enseignant suffisamment informé, parce que beaucoup d'enseignants en France ne savent même pas que Canalu existe. C'est comme ça. C'est la réalité. Je crois qu'il faut bien être conscient de la réalité. Alors nous, on a la chance d'avoir maintenant le portail universitenumérique.fr, une entrée unique donnant accès à toutes les ressources numériques d'enseignement pour tous les secteurs thématiques de l'enseignement national. Là, voilà, une seule URL. Vous allez la répandre comme le virus H1N1. Et il faut que tout le monde ait ça dans sa tête, parce que c'est l'antivirus pour les étudiants, si je peux me permettre ce raccourci en tant que médecin. Je crois que le deuxième point, c'est que voilà, un seul accès pour toutes les ressources, essentiellement des UNT. Alors vous avez la liste, vous les connaissez aussi bien que moi, je ne vais pas vous les décrire. On a la chance aussi, l'action de vouloir entraîner tout le monde. On y arrive. Il faut pas désespérer. On a commencé l'UMVF. Nous étions 8 universités en 2003. Après les programmes Allègre de campus numérique qui visaient déjà un problème qui a été encore redit aujourd'hui. C'est la différence entre l'enseignement ouvert et à distance, que tout le monde comprend, et les ressources d'enseignement numérique de travail d'un étudiant. C'est cette confusion qui est dramatique. C'est que tout le monde parle sans comprendre de quoi il s'agit. Les ressources, aujourd'hui, nos étudiants sont des étudiants Web 3.0. Ils vont le devenir, ils vous obligeront à l'être. Ma fille, qui a 13 ans, j'ai entendu tout à l'heure un collègue qui disait que c'était Internet pour les jeunes, c'était ludique. Mais ils travaillent avec. Vous vous trompez totalement. C'est un truc de boulot. Elle rentre, elle va à l'ordinateur, elle apprend ses cours, elle prend les notes, elle va faire sa recherche documentaire. Elle s'amuse pas, elle bosse. Ça n'a rien à voir. Donc il y a peut-être aussi le ludique, mais c'est vrai que c'est un outil de travail. Alors je vais pas vous choquer. Hein. Alors j'ai mis en référence quand même Canalu qui a été cité dans la presse. C'est très important Canalu. C'est une bibliothèque audiovisuelle merveilleuse, extraordinaire, insuffisamment utilisée par les enseignants dans leur cursus. C'est une bibliothèque, c'est une chaîne de télévision indexée en l'homme.fr, podcastable. C'est extraordinaire. Il y a un travail fabuleux qui a été fait. Eh bien, avec maintenant, on a commencé, on avait 3000 ressources, maintenant il y en a 5000, et ça ne fera que continuer. Alors, juste accès par discipline, parce que la commande du ministère aujourd'hui, c'est de dire, faites-nous une liste simple, normalisée, de ressources numériques, discipline par discipline, dans tel ou tel cursus de formation, vous avez telle discipline. Eh bien, il faut que, en ligne, maintenant, on a modifié la homepage de l'UMVF, par exemple, vous allez la voir. Il faudrait qu'on aille en ligne, mais je veux pas perdre de temps parce que je vais me perdre dans la navigation et je vous dirai beaucoup d'autres choses. Mais voilà, allez voir. Ça suffit. C'est pas la peine. Et en plus, il y a les ressources. J'ai pas tout montré parce qu'à droite, il y a l'origine des ressources. Ça peut être des ressources campus numérique, au sens que nous appelons référentiel national, ou les ressources de Paris 6, ou de Paris 5, qui voudra bien ouvrir ses ressources numériques. Merci, monsieur le président de l'Université de Paris 5, d'ouvrir vos ressources numériques qui ne soient pas réservées uniquement aux étudiants de Paris 5. Et ce serait quand même une action généreuse à faire pour d'autres étudiants. Je crois que c'est indispensable. Le moteur de recherche,
de ressources normalisées, indexées dans l'homme.fr de manière moderne. Eh bien, aujourd'hui, c'est peut-être difficile à lire, mais moi, je sais qu'en recherchant anatomie sur le moteur de recherche universitenumérique.fr, mes étudiants vont retrouver l'UMVF et les navigations nécessaires, c'est-à-dire vous allez retrouver l'anatomie fonctionnelle en 3D du cerveau, l'excellent travail du professeur Hasboun, qui est en face de nous et qui a fait un travail magnifique à Paris 6 dans ce domaine. C'est pas du tout un PDF, des millions de choses en plus. Et évidemment, le numérique, c'est mieux que le PDF. Ça permet beaucoup mieux que le PDF et que des ressources basiques. Mais laissons des gens extraordinaires mettre ça au service de la communauté. Vous ne pourrez pas tous avoir les moyens et l'énergie d'un individu formidable qui va vous mettre à la disposition de tous un outil fabuleux de travail. Allez à Lyon 1 en STAPS, vous allez voir en PDF des ressources anatomiques en 3D qui sont, ça vous laisse extrêmement émerveillé. Voilà, alors je continue, et je ne voudrais pas privilégier, puisque je parle au nom de l'ensemble des UNT, mes collègues, je vois Yann Tanguy, le patron de l'UNJF, dans des disciplines de sciences humaines, sciences juridiques, il y a des fabuleuses ressources, et maintenant des exercices, n'avez pas seulement des cas pratiques interactifs, et tout ceci est normalisé par rapport aux besoins d'un parcours de formation. Ce n'est pas au hasard, c'est fait de manière organisée dans un plan de formation. Ça n'a rien à voir avec des ressources googlisées. Il faut bien comprendre l'intérêt des UNT. C'est ça l'intérêt des UNT. Alors quand il n'y a pas des choses en ligne, ou il n'y a pas de connexion Internet, aujourd'hui on a des outils offline, on a des clés USB, tout le monde a sa clé USB. On a des disques durs à 100 balles qui vous permettent d'avoir des millions de ressources. On a toute l'UMVF sur un petit disque dur comme ça. On appelle ça serveur miroir. Si vos serveurs se plantent, faites des serveurs miroirs de vos ressources et vous aurez exactement l'outil qu'il faut pour pallier au plantage. On parle de millions de vous allez avoir des connexions simultanées, forcément, si tout le monde doit... Il faut donc trouver d'autres systèmes. Eh bien, le système simple, c'est le système offline. Et pour l'Afrique, pour deux enfants africains qui se forment dans les disciplines médicales, on ne va pas leur vendre l'Internet qu'ils n'ont pas. Certes, on espère qu'ils l'auront, mais on leur donne des ressources offline et avec des navigateurs à l'intérieur. Et vous avez exactement les mêmes fonctionnalités que sur une ressource en ligne avec un navigateur. Vous connaissez tous, on a tous parlé du tutorat interétudiant. Vous avez quand même lu la presse, les cocos. À Grenoble, le tutorat interétudiant, ça existe. Ça a été organisé. C'est payé. Tous les étudiants de troisième année de médecine font le tutorat des P1, des bébés étudiants. C'est formidable. Pourquoi ne pas le faire ailleurs? Et puis après, il y a les visioconférences. Voilà les systèmes d'échange de travail. Je vous apprends rien. Voilà les ressources numériques les plus basiques. C'est du PowerPoint sonorisé. Mais ça suffit pour apprendre l'anatomie dans de très, très bonnes conditions. On va pas chercher des trucs... et voilà les ressources pour les STAPS. Voilà. Et puis c'est pareil. Vous allez retrouver avec UNIT le travail des ingénieurs des technologies. Est merveilleux. Ils ont fait, tout est ouvert. Tout est gratuit. Et c'est ouvert au monde entier, francophone. Je crois qu'il faut quand même le dire. On est meilleur que le MIT. Il faut l'entendre. On est bien meilleur que le MIT. Faites la comparaison. Et UOH, c'est plus difficile pour les sciences dites humaines. Ce sont des sciences, les sciences littéraires. C'est vrai. Il faut bien le dire. Mais je crois qu'il y a déjà un travail. J'ai cherché sur au hasard Spinoza en tapant... Dans le portail universitenumérique.fr, voyez toutes les ressources que vous retrouvez sur Spinoza. C'est formidable. Donc, écoutez, réveillons-nous. Nous avons les UNT, servons-nous. Vous avez ONEJ, vous avez UNICIEL, vous avez ONEJ, voilà, sur la propriété intellectuelle en actes, en cinq actes, éco-gestion, Web TV, formidable. C'est de très très grande qualité. Et il faut voir le travail extraordinaire qu'a fait notre collègue Monique Vindevogel avec UNICIEL en très peu de temps, avec des moyens inférieurs à ceux qui ont été donnés à la médecine. Je crois qu'il faut bien le dire. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si vous ne prenez pas conscience de la qualité d'un outil national et francophone exportable dans le monde entier, on passe à côté de quelque chose. UVED, je ne peux pas oublier les sciences de l'environnement d'aujourd'hui, où l'écologie prend une telle place dans la vie politique du pays. C'est fondamental. Eh bien, regardez, c'est vraiment très bien. Je m'excuse de faire un constat de satisfaction. C'est formidable. Donc pourquoi s'angoisser de ces messieurs qui veulent conserver leur petite propriété intellectuelle personnelle pour l'enseignement ouvert et à distance? Je m'excuse. Moi, ça me... Bon, alors, fonction des UNT, éditer des ressources pédagogiques, certifier leur qualité pédagogique et technique, indexer, diffuser à travers un portail institutionnel, promouvoir auprès des enseignants, et faisons de nos enseignants des prescripteurs du numérique. C'est à eux de prendre la main, qu'ils se réveillent. Qu'ils se réveillent, il est temps, nous sommes au troisième millénaire, le Gutenberg s'est passé. On est allé à l'époque du numérique. C'est quand même extraordinaire qu'il faille les convaincre encore. Rendre accessibles leurs ressources à travers les UNR, important. Alors peut-être, après ce colloque formidable organisé par la SDTIS, peut-être que les UNR pourraient organiser, monsieur le directeur, des réunions régionales avec les établissements pour essayer de remettre un petit peu d'allant auprès des collègues les plus réticents. Plutôt que ceux qui sont convaincus. On est tous convaincus ici du numérique. Ce qui nous manque, c'est ceux qui ne le sont pas. Comme souvent, on convainc les gens avec lesquels on est d'accord. Inscrire leurs ressources dans l'offre de formation des établissements, définir le schéma éditorial des chaînes thématiques, pas seulement de CANAU, mais des UNT, développer l'apport de la recherche à l'enseignement et les collaborations internationales. Les UNT s'engagent à suivre les usages des étudiants et mettre les étudiants au cœur du système, pas en marginal. Il faut qu'ils soient au centre. C'est le nouveau paradigme de l'enseignement numérique. Les étudiants, les utilisateurs au centre. Nous avons dans l'UNF3S, maintenant, ça s'appelle, il y a une commission étudiante qui siège dans toutes les commissions, avec les doyens, avec les présidents, avec tout le monde. Et le nouveau portail qui va être mis en route le 30 septembre, d'ailleurs à l'occasion de la commande du ministère, a été fait en étroite collaboration avec l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Vous avez des associations. Il y a un VP étudiant qui est là, qui représente la conférence des présidents. Il est parti, je crois. C'était trop long. Il est là. Merci. Donc, s'il est là, c'est très bien. Il faut que la conférence des VP étudiants participe activement à l'ensemble du travail des UNT. Monsieur le Président, je vous invite. Voilà. Donc, il faut terminer. Les UNT pilotent le développement par grandes thématiques disciplinaires de contenus pédagogiques numériques validés en s'inscrivant dans les parcours de formation ou en accompagnement de ces parcours. Donc, elles s'inscrivent dans la politique de développement des usages et pas seulement de la production de ressources. Elles ont pour mission une mutualisation à l'échelle nationale et de valoriser le travail des enseignants les meilleurs qui font et qui finissent par être très populaires. Dominique Hasboun est connu sur l'ensemble de la France médicale, je pense, par le travail qu'il fait sur le numérique. Et il faut le saluer pour ça. Et il y en a quelques autres qui sont totalement remarquables. Daniel Pagonis à Grenoble et d'autres.
On peut peut-être...
Et je termine. Merci, monsieur le directeur.
Merci. Carole Lutruit.
Il faut juste qu'on change de place.
Oui.
Pardon. Je vous fais une place, merci. Je ferme ça. C'est vous le... Carole ?
Voilà.
Carole. Je vous l'ouvre. Merci.
Bonjour, donc je suis Carole Le Truit, directrice du SCD de Paris 8, mais j'interviens ici plus particulièrement en tant que chargée de mission par le consortium Couperin pour l'accès distant. Je souhaite vous parler de deux services qui existent depuis un certain nombre d'années, qui n'ont pas, enfin, pour l'accès distant depuis quelques années et pour le deuxième qui, je souhaite évoquer les services de référence virtuelle, sont plus nouveaux en France, mais bon, qui n'ont pas été créés spécialement pour le contexte qui nous préoccupe aujourd'hui, mais qui peuvent être éclairés de façon particulière dans ce contexte et revêtir une importance renouvelée. Ce sont aussi, me semble-t-il, deux très beaux exemples de mutualisation, puisque vous en avez beaucoup parlé, puisque ces services ne peuvent voir le jour que parce que les bibliothécaires de France ou de région collaborent très souvent. C'est une habitude que nous avons prise depuis de nombreuses années, et donc Couperin est le plus bel exemple pour faire face à... au changement de nos métiers, mais aussi au manque de personnel, qui est le même que dans les services TIS, dans les bibliothèques. Le premier service que je voulais vous présenter, c'est celui de l'accès distant. J'en parle parce que la documentation est pour moi partie intégrante de l'enseignement, et je voudrais battre en brèche une idée reçue, qui est que la documentation électronique sert avant tout à la recherche. Certes, elle est fondamentale pour la recherche, très précieuse, mais de plus en plus, il suffit d'analyser de près les statistiques d'usage et surtout de donner accès à tout le monde. Mais à partir du moment où on donne accès à toute la communauté étudiante en particulier, on s'aperçoit que les ressources électroniques, la documentation électronique, est de plus en plus utilisée par les étudiants et de plus en plus tôt dans leurs études. C'est lié aux évolutions de la pédagogie, à la mise en place du LMD aussi, puisque au moins dans certaines disciplines, et je l'ai vu en particulier en psychologie, on les incite à recourir de plus en plus tôt à la documentation en ligne, et puis aussi, je pense, au fait qu'ils se sont plongés dedans depuis leur enfance, et que pour eux, donc, ça devient naturel d'aller voir aussi ce qu'il existe comme documentation universitaire sur Internet. La problématique de l'accès distant est née d'une augmentation rapide des abonnements aux revues en ligne, aux livres électroniques et aux bases de données. Donc je parle de ressources payantes, hein, puisque il n'y a que dans ce contexte-là que la question a un sens. L'accès traditionnel par adresse IP qui limite la consultation aux machines situées sur le réseau de l'établissement n'est plus possible dans le cas d'une pandémie grippale, d'une fermeture d'établissement qui inclut la fermeture de la bibliothèque. Comment faire à ce moment-là pour permettre aux membres de l'établissement de consulter les ressources documentaires de n'importe où, de leur domicile, voire d'un cybercafé ou de tout autre ordinateur doté d'une connexion Internet ? Et bien sûr, dans le respect des contrats souscrits. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des solutions techniques, il en existe un certain nombre, au moins trois grandes identifiées qui sont mentionnées ici. Le prérequis est le même pour les trois, un annuaire qui définisse la communauté. Et je soulignerai peut-être le protocole Shibboleth et l'adhésion à la Fédération d'identité Renater, d'autant plus que dans le cas des UNT qui ont été évoquées, décrite précédemment, c'est le protocole qui a été mis en place par au moins deux d'entre elles qui sont membres de la Fédération d'identité, l'UNJF et UNIT, qui utilisent ce protocole donc pour, à partir des cours et de la bibliographie qui suit le cours, donner dans la foulée, j'allais dire, accès au texte intégral de l'article mentionné ou de l'ouvrage cité. Bien sûr, les aspects contractuels dans le cas de ces ressources numériques payantes doivent être étudiés de près. Mais je vous rassure, d'après les études qui ont été conduites dans le cadre de Couperin, moins de 10% des éditeurs français et internationaux n'autorisent pas l'accès distant. Donc là aussi, c'est une idée reçue qu'il y aurait des obstacles juridiques insurmontables, non. Pour quel public ? Là aussi, la licence qui a été souscrite par l'établissement peut comporter des restrictions dont il faut s'informer et qu'il faut être capable de respecter, ce que doit permettre normalement l'annuaire de l'établissement s'il est conçu dans cet esprit. Le consortium Couperin a mené une enquête en octobre 2007 qui a été réactualisée en décembre 2008 pour faire un bilan de l'existence à l'heure actuelle de ces services accès distant. Donc 127 réponses reçues sur les 218 membres que comporte le consortium Couperin ou que comportait à cette époque-là le consortium Couperin. Un nombre non négligeable puisqu'on arrive à 80 établissements, alors universités mais aussi organismes de recherche et qui sont membres de Couperin, sont dotés d'une solution accès distant et 22 avaient des projets sans échéance fixée. Un détail ensuite sur les solutions techniques retenues. Vous voyez qu'il y a une dominante proxy, reverse proxy, mais que j'allais dire l'imagination est au pouvoir aussi. On peut imaginer des variantes. Et dans 62% des cas, le dispositif a été élaboré en interne, c'est-à-dire que même des petits établissements avec des moyens informatiques peu développés et une bibliothèque qui n'est pas démesurée non plus, avec une équipe de bibliothèque pas démesurée, peut mettre sur pied ce type de service. Dans les projets en cours, on note une prédominance des reverse proxy et parfois associé à Chibolette, qui commence à bien se développer. Le projet accès distant est peu coûteux en investissement, de l'ordre de 500 à 15 000 euros, tout dépend si on monte un projet en interne ou si on sous-traite, et il est aussi peu coûteux en fonctionnement. En revanche, il est prudent de prévoir des moyens humains pour la maintenance et l'assistance, mais tout ça peut se faire à distance, puisqu'on est aussi pour cette partie-là capable de travailler à distance. Il suppose une bonne collaboration entre les services de l'établissement, plus précisément entre le service informatique et la bibliothèque. Donc les restrictions juridiques, j'en ai parlé. Une autre idée reçue, l'accès distant aurait un coût élevé. À nouveau, quand on regarde de près ce qui est négocié, les licences Couperin, c'est très rare que l'accès distant induise un surcoût. Vraiment très peu de cas. Et surtout, j'ai parlé des UNT, mais cet accès distant s'intègre ou doit s'intégrer parfaitement au portail documentaire et à l'ENT de l'établissement, puisqu'en fait, il réutilise la plupart du temps le système d'authentification de l'ENT, enfin, et le protocole CAS, et voir le chibolette si l'université l'a mis en place pour d'autres services. Deuxième service dont je voulais vous parler de façon un peu plus rapide, mais qui est un autre exemple de mutualisation très efficace, cette fois-ci à l'échelon régional, puisque c'est un projet qui a été conduit dans l'UNR Île-de-France. C'est le service de référence virtuelle. Donc les bibliothèques peuvent assurer ce service aussi à distance, c'est-à-dire que des bibliothécaires qui seraient en situation de travailler à partir de chez eux peuvent continuer à assurer ce service et répondre à des étudiants qui aussi seraient contraints de rester chez eux, sachant que c'est pas le cas pour d'autres services documentaires. Par exemple, on ne peut pas, ou beaucoup plus difficilement, utiliser un système intégré de gestion de bibliothèque depuis chez soi. Ou alors, il faut les dernières générations en full web, mais c'est encore loin d'être le cas de tous les SIGB. Je tenais à le signaler parce que la question a été posée plusieurs fois. Donc, les services de référence virtuelle permettent de poser à distance des questions documentaires à un bibliothécaire qui peut répondre de chez lui, soit en mode synchrone, quand il existe donc des possibilités de chat, mais elles se développent régulièrement, et ou en mode asynchrone par le biais de la messagerie électronique. C'est une façon de maintenir un lien entre les étudiants, les enseignants et leur bibliothèque, ou en tout cas les bibliothécaires, qui peuvent répondre soit sous forme de bibliographie, alors qui renvoie aux ouvrages papier, mais après encore faut-il y avoir accès, mais à nouveau aux ressources électroniques, et là c'est le service accès distant qui pourra prendre le relais. Donc il existe déjà plusieurs services dits de référence virtuelle, Simbad mis en place par la BNF, BiblioSésame par le réseau des bibliothèques de lecture publique qui est piloté par la BPI, Ubib pour ne pas oublier les collègues du Grand Ouest qui ont ouvert ce service assez récemment, et Rue des Facs, qui est le service de l'UNR Île-de-France, sur lequel je vais revenir un petit peu par la suite, et des services comme celui de la BUM, la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine, qui existe depuis fort longtemps, mais qui peut être très utile dans les circonstances que nous évoquons. Rue des Facs. Un projet financé donc par l'UNR Île-de-France et la mairie de Paris, qui a ouvert en janvier 2009, qui est donc le produit de la collaboration d'une vingtaine de bibliothèques de Paris et d'Île-de-France, qui représente à peu près 250 bibliothécaires qui mutualisent leurs compétences. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une réponse d'un bibliothécaire qui n'est pas du tout dans votre université, mais qui se trouve être compétent sur la question que vous posez. Couvre actuellement donc plutôt les SHS, donc les sciences humaines et sociales, l'art, les arts, l'éco-gestion, mais une composante droit et sciences et une autre sciences exactes devrait ouvrir incessamment. Vous obtenez une réponse sous 72 heures maximum, c'est un engagement contractuel, j'allais dire, quand vous envoyez un message sur le formulaire sur la page de Rue des Facs ou en chat, en temps réel, vous obtenez une réponse. C'est un service qui est ouvert à tous, c'est-à-dire n'importe quel citoyen peut l'utiliser, mais bien sûr, il répond en priorité aux étudiants et enseignants chercheurs. Voilà ce que je voulais vous dire des services documentaires à distance. Et je vous donne là les deux URL, donc de Couperin et de Rue des Facs surtout.
Merci. Je ne sais plus si vous avez précisé ce qu'était le consortium Couperin.
Non, je ne l'ai pas précisé. J'ai cru que c'était une évidence, mais peut-être que cela ne va pas de soi. Donc le consortium Couperin est un consortium d'achat qui regroupe l'intégralité des universités françaises à ce jour, je crois bien, plus beaucoup d'organismes de recherche, dont les plus grands, et qui cherchent, donc, dont le but est de négocier l'achat de ressources documentaires pour les établissements qui souhaitent après souscrire un abonnement à ces ressources et qui recourent de plus en plus à la forme groupement d'achat aussi, donc ce qui permet d'obtenir des tarifs qui sont bien plus intéressants. Et nous nous sommes aperçus récemment que le consortium français, donc Couperin, est le plus gros d'Europe, à la fois en termes de nombre d'adhérents et en termes de licences négociées. Voilà. Et donc ce consortium certes négocie, mais a aussi un département études et prospectives qui permet de mutualiser des réflexions sur des services type accès distant, justement, ou sur les résolveurs de liens à une époque, sur les outils de gestion des périodiques en ligne. Enfin, tout, c'est vraiment des outils, un outil d'échange dans la profession qui nous est très précieux.
Merci. Donc, on est bien, me semble-t-il, dans le triptyque contenu, accessibilité, usage, même si on n'a, je pense, pas le temps de parler vraiment des usages, mais je pense que ça aurait été intéressant. Moi, je retiens deux sujets, peut-être, sur lesquels on pourrait réagir, à la fois sur l'idée de ce portail d'accès unique, qui serait soit une sorte de tour de Babel, soit un guichet unique d'accès, et puis la question dont a parlé Carole sur l'intégration, enfin profiter du numérique pour mieux intégrer la part documentaire dans la démarche pédagogique. Voilà. Question. C'est la fin de la journée.
Pardon, excusez-moi, un étudiant qui n'appartient pas à un établissement qui fonctionne sur le réseau Couperin ne pourra pas accéder à les documentations de revues internationales.
Si son établissement a souscrit à l'abonnement, la question est l'établissement. C'est l'établissement.
Est-ce que tous les établissements français font partie du Couperin?
Les universités, il me semble bien qu'elles en sont toutes membres. Hein. Vraiment.
Oui. Après, il y a quoi? Les grandes écoles
Les grandes écoles, les grands organismes de recherche, les grands et les petits.
Donc ça veut dire presque la totalité de tous les établissements français.
Je crois que Couperin compte actuellement 220 membres. Alors oui, ça représente une grande partie de la collectivité recherche, enfin enseignement-recherche.
C'est quand même très très bien.
Quelqu'un d'autre a pris la parole.
Oui. Sur l'UNT, où effectivement on a perçu l'enthousiasme de l'orateur, je rentre dans mon université et si je dis à mon président que dans le plan de continuité je mets l'UNT, il va tout de suite me dire que ça coûte plus de 100 000 euros ou je me trompe.
Attendez. Votre établissement, votre université, c'est laquelle? Je vais vous répondre plus précis.
Université Paul Sabatier, Toulouse 3.
Oui. Il y a quoi? UOH et UVED dans votre...
Non, c'est lié à tout sauf le juridique.
Sauf le juridique. Ben oui. Vous avez une composante médicale?
Oh, oui, on a deux facs de médecine, une fac de pharmacie, une fac d'odontologie.
Les règles d'adhésion qui ont été édictées d'ailleurs par la CPU, par la communauté des présidents, sont claires, c'est statutaire. Il y a un prix qui est fonction du nombre d'étudiants. C'est une espèce de règle qui a été admise. Et donc, il y a des niveaux de cotisation, mais qui, par discipline, par grande thématique, par exemple, pour l'UNF 3S, un très grand établissement, Paris 5, Paris 6, paye autour de 15 000 euros par an. Oui, oui, je pense, oui. Je le pense.
Est-ce qu'il n'est pas dommage qu'il y ait cette différenciation dans la prise en charge? Est-ce que ce type d'outil, cet outil-là, ne devrait-il pas faire l'objet d'une prise en charge de manière...
Attendez, il faut... Une réponse de monsieur le directeur.
Non, mais il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Il y a le fait d'adhérer à une UNT, de participer à l'activité de production scientifique, de validation scientifique. Et puis après, mais c'est totalement autre chose, il y a le fait de pouvoir consulter et d'avoir accès aux ressources de l'UNT. Et aujourd'hui, à part le cas des juristes, toutes les ressources qui sont ouvertes sur les UNT sont ouvertes à tout le monde. Donc vous pouvez, droit, mais justement ça ne vous concerne pas, faire le lien sur l'ENT de votre établissement aux 6 UNT et donner donc l'accès.
Non, c'est gratuit.
Moi, je voudrais confirmer effectivement que pour l'UNT UNIT en sciences et en ingénierie, Tout est ouvert gratuitement pour le monde entier. Sur 1500 contenus pédagogiques que nous avons sur UNIT, il y en a 3 qui sont limités. Tous les autres sont totalement disponibles gratuitement pour le monde entier, pour tout usage, que ce soit un usage de formation initiale, de formation continue ou même de formation permanente et même d'application commerciale.
Le seul bémol qu'on est obligé de mettre pour certains contenus, si vous permettez, en médecine et en pharmacie, c'est des contenus qui agressent la sensibilité des enfants ou qui ont des dangers de santé publique. Donc là, on peut pas montrer des séances d'accouchement difficiles, sanguinolents, etc. C'est pas possible. Donc on est obligé de fermer, on met des passwords pour ça. Mais c'est uniquement pour ces raisons-là. Pour un détournement d'usage potentiel aussi.
J'aurais peut-être une question sur Couperin, justement, puisqu'il y a un certain nombre d'établissements qui ont des licences permettant l'accès à distance. Que va-t-il se passer pour les établissements qui n'ont pas signé de telles licences et qui, donc, demain, si les établissements et les
centres
de commande documentation fermés, ne pourraient pas offrir à leurs étudiants l'accès à ces ressources documentaires? Est-ce qu'il est possible de négocier en urgence avec Couperin? Est-ce qu'il faut une négociation au ministère avec les éditeurs? Qu'est-ce qui va se passer pour ces établissements-là?
Alors effectivement, ça relèverait d'une négociation avec les éditeurs. Couperin peut prêter ses bons offices de négociateur, mais c'est avec les éditeurs qu'il faut négocier, effectivement. Ça peut se concevoir que ça se fasse un peu dans l'urgence, mais c'est surtout que ça supposerait que les établissements souscrivent ou qu'un éditeur ouvre l'accès à toute la communauté universitaire française pendant un laps de temps, de façon gratuite, ou en tout cas à un tarif qui ne soit pas celui pratiqué en temps normal.
Juste pour compléter, compte tenu de l'urgence et de la spécificité de la situation, le ministère aura aussi à intervenir. Et je peux vous dire que les éditeurs ont été informés d'une possibilité, effectivement, de contact sur cette question-là. Hein. Donc, ils ne seront pas pris au dépourvu. Hein.
Oui, je voulais revenir aussi sur Couperin, plus sous l'angle de l'usage que peuvent en faire les anciens chercheurs.
En fait, ce qui me préoccupe, je l'ai un peu dit ce matin dans notre préoccupation, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à mes collègues du SCD, c'est d'instruire en fait des possibilités d'existence de ces ressources, de leur disponibilité et de la richesse qu'elles présentaient. Parce que ce qui embête souvent les collègues du SCD, enfin qui les soucie plutôt, c'est la méconnaissance réelle des enseignants de la disponibilité de l'ensemble de ces ressources au sein de la bibliothèque. Ils sont fortement étonnés, régulièrement, malgré les propositions de formation et d'initiation qui sont programmées chaque année, de la méconnaissance et de la malpratique, en fait, de l'ensemble de la recherche. Et donc, je le citais ce matin, donc on se préoccupe surtout de problèmes de droits, de documents qui pourraient être... Mais en réalité, beaucoup de documents disponibles existent à travers Couperin, donc fournis par ces, comme ressources, qui peuvent être exploités et libérer des droits. Voilà. Donc c'est la question de comment améliorer la connaissance de tout ça. Quoi.
Oui, c'est vrai que c'est un réel problème qui se pose pas uniquement chez vous. Moi, je le vois dans beaucoup d'endroits, qu'on n'est pas forcément très fort en communication dans les bibliothèques. On est en période de rentrée universitaire. Effectivement, moi, dans mon propre établissement, j'essaie de communiquer sur les ressources qu'on met à disposition. Mon avis, il faut démultiplier les canaux, démultiplier les formes. Il n'y a qu'en jouant sur la redondance qu'on arrivera à toucher un maximum de personnes. Il a été question des réseaux sociaux à un moment. De plus en plus, enfin en tout cas les bibliothèques essaient aussi d'utiliser les outils du web 2.0. Si vous allez sur Facebook, il y en a de plus en plus des bibliothèques qui essaient montrer et d'animer des discussions. Et ça marche assez bien, mais bon, c'est sûr qu'on entre dans un autre type de relation avec les étudiants et les enseignants-chercheurs. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette présentation aujourd'hui, parce que je ne sais pas si tout le monde aurait pensé à l'accès distant dans ce cadre-là. Voilà. Bon.
On pourrait peut-être mettre une référence à tout ceci au sein des UNT, peut-être dans Université numérique.
Oui, c'est une bonne idée. Peut-être que ça pourrait mieux ressortir. Oui, tout à fait.
Comme service commun pour tout le monde.
Tout à fait, oui. C'est une bonne idée. C'est vrai, parce que je sais que les UNT...
Justement que l'accessibilité soit la plus évidente possible, très directe, dès l'arrivée sur le tableau de bord, c'est un des premiers points pour accéder les ressources publiques. Parce que la science humaine, c'est plus évident.
Mais c'est aussi par le biais des formations, alors au primo entrant, mais aussi tout au long des semestres d'études où il faut revenir plusieurs fois sur la question.
Les étudiants sont souvent quand même de très bons témoins de quand vous mettez quelque chose de bien, de formidable, ça marche ça, tout de suite. On a mis en route dans l'UNT médecine un campus d'anglais médical qui n'existait pas. Il faut aller le voir. Ça provoque environ 2 millions de connexions par mois. Ça n'existait pas avant. Et donc, par ce canal-là, les étudiants redécouvrent autre chose.
Oui. Une question par rapport à la numérisation des fonds. Je voudrais savoir, entre les initiatives locales, s'il y en a d'abord, s'il y a des projets, et les initiatives nationales, et voire internationales avec Google Books. Moi, je m'aperçois qu'en fin de compte, maintenant, dans ma pratique, je travaille de plus en plus sur Google Books, parce que je n'ai pas d'équivalent actuellement sur des bouquins de médecine aussi facilement accessibles, sauf au travers de l'accès distant de l'UPMC, où effectivement, on a quelques livres, alors là, c'est extraordinaire, qui sont carrément en PDF, et que j'ai maintenant sur ma machine, que je peux consulter quand je veux. Donc, où en est ce problème de la numérisation, parce que c'est une nouvelle pratique de la bibliothèque, et je pense que c'est un point extrêmement important pour nous tous.
Alors pour moi, il faut distinguer. Enfin, juste un petit mot, puis je pense que Monsieur Collard a plein de choses à ajouter. Mais juste, il faut distinguer numérisation de fonds qui seraient à la bibliothèque et de préférence des fonds libres de droit, parce que sinon on entre dans des problèmes juridiques énormes, et les manuels en ligne. Parce qu'effectivement, et c'est aussi pour ça que je parlais de bien suivre les usages de la documentation électronique. on sent frémir une offre de manuel ou de livres vraiment très premier degré ou avec des fonctions très avancées aussi. Mais enfin, moi, j'en ai pas vu trop en médecine. Si, peut-être du côté d'Ovid un petit peu. Mais bon, il y a le problème de la langue
j'ai
après
vu
aussi.
Ça c'est dans l'enseignement primaire.
Voilà. Bon, donc pour l'instant, il y a des frémissements. Je ne sais pas si Alain Collin a des choses. On sait plus.
Non, sans rentrer dans les détails. Bon, la numérisation de la documentation universitaire. C'est pas une affaire nouvelle, même si ce n'est pas fait d'une manière massive. La nouveauté peut-être, c'est que effectivement, je crois qu'il est temps d'accompagner en tout cas des projets plus importants de numérisation. Alors vous citiez l'exemple de la médecine. Alors ça c'est un excellent exemple dans la mesure où l'ABUM elle-même depuis des années a engagé toute une activité de numérisation qui va s'inscrire dans le cadre d'un partenariat qui aura certainement comme résultat d'avoir une plus grande visibilité, notamment avec la BNF. Donc, partenariat le plus large possible pour ces opérations-là. Je parlais de la BNF, mais également au sein même de l'enseignement supérieur et la recherche, dans le cadre de ce que nous sommes en train de mettre en place, ce que nous appelons la bibliothèque scientifique numérique, qui concerne à la fois des ressources payantes, mais aussi le plus grand nombre possible de documents numérisés. Donc nous avons engagé un travail, hein, c'est un travail quand même assez de longue haleine, hein, puisqu'il s'agit de repérer la documentation susceptible d'être numérisée, qui est quand même un intérêt scientifique. Donc ce travail est engagé et ça aura bientôt une visibilité, c'est évident.
Bien, il y a encore des questions? Oui.
Ah, ça marche. Oui, Christophe Porlier, École normale supérieure lettres sur Lyon. Simplement pour une petite remarque, un constat tout d'abord, depuis effectivement les différents échanges depuis ce matin, on constate une hiérarchie en réalité dans les ressources produites. Une hiérarchie qui se construit sur des ressources qui sont, on va dire, locales, avec l'ensemble des outils mis à disposition. Et je crois que là, d'un point de vue de l'ensemble des établissements, un certain nombre d'outils existent de façon assez diversifiée, mais finalement remplit un certain nombre de missions d'échange possibles entre les étudiants et les enseignants, donc des ressources produites en autonomie par l'enseignant dans le cadre de sa pédagogie, et puis des ressources, d'un autre côté, qui sont plutôt de l'ordre du patrimoine, des ressources patrimoniales validées, proposées dans le cadre d'un portail national, de portails nationaux, comme les UNT. Donc je crois que peut-être aujourd'hui, ce qui manque d'après ce que j'ai pu entendre, c'est pour certains interlocuteurs, serait d'avoir des outils mis à disposition d'un point de vue national, des outils qui seraient de l'ordre d'outils de proximité, permettant des échanges. Donc ça veut dire que les UNT pourraient tout à fait évoluer en continuant à être des portails d'offres de ressources de référence, tout en proposant un certain nombre d'autres services d'échange au niveau de la communauté des enseignants et des étudiants. Voilà, c'était juste un constat.
Bien. Une dernière question. Ah, tout là-haut.
Oui, François Mangenot de l'Université Grenoble 3. Je suis vice-président chargé de la formation à distance. Je réagis un peu à l'histoire des ressources, mais aussi à l'ensemble de la journée. Je suis dans une fac lettres, arts, sciences du langage, sciences de la communication. Je connais assez bien ce que mes collègues, comme on est une petite université, je connais assez bien. On a aussi de l'enseignement à distance, 1600 étudiants à distance, ce qui est beaucoup par rapport à notre taille. Je connais assez bien ce que font les collègues de la plupart des disciplines. Et pour en revenir donc à la question de la pandémie, admettons, soyons optimistes, que les universités ferment, mettons, 2-3 semaines, comme l'a évoqué le collègue pharmacien. Il me semble que d'une part, pour un prof lambda qui n'est pas spécialement technophile, aller trouver la bonne ressource qui va bien s'insérer dans son cours et dans ses exigences, dans ses objectifs, et qui va permettre à l'étudiant de bien réussir l'évaluation, parce que c'est quand même ça, le premier objectif d'un étudiant, c'est quand même de réussir son évaluation, faut pas l'oublier. Donc ça va être totalement disproportionné par rapport à la durée de 2 ou 3 semaines pendant lesquelles les cours présentiels n'auront pas lieu. Et de l'autre côté, l'idéal de la formation à distance avec un suivi, des échanges même entre étudiants, on a même parlé de collaboration entre étudiants. Je la pratique, ça fait 10 ans que je fais de l'enseignement à distance et du tutorat. Je sais le temps que ça demande et surtout quand on fait collaborer les étudiants, ça multiplie encore le temps de tutorat qui est exigé. Donc ces deux solutions-là ne me semblent pas adaptées à une fermeture relativement brève des universités. Elle le serait sans doute si c'était une fermeture beaucoup plus longue. Finalement, dans cette journée, la proposition que j'ai entendue qui m'a semblé la plus réaliste par rapport à une fermeture de 2-3 semaines, et c'est celle que j'ai envie de propager un peu dans mon université à mon retour, c'est celle du collègue de Toulouse là, qui parlait de ses travaux personnels ouverts et à distance. Pourquoi ? Parce que travaux personnels, on est dans les schèmes d'utilisation, dans les schèmes de pratique de ce que font les enseignants, même les plus technophiles, les plus technophobes, je veux dire, ils donnent des travaux à faire à leurs étudiants, ils savent ce que c'est. Donc si on leur dit travaux personnels, ils comprennent ce que ça peut vouloir dire. Et en plus, il y avait cette idée de rythme hebdomadaire qui me semblait intéressante, parce que bon, on fonctionne très souvent dans nos cours par rythme hebdomadaire, que quand l'université ferme, on ne sait pas quand elle va rouvrir, donc on peut proposer un premier travail personnel ouvert et à distance pour une semaine, puis si ça continue pour une deuxième semaine. Et il me semble que ça serait, c'est, de ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est ce qui me paraît le plus réaliste en termes de propagation auprès de nos collègues. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Bien, je remercie Alain Colas et les deux intervenants, Albert Claude et Madame Letrouy, pour leur participation à cette dernière table ronde. Je vais juste dire quelques mots en 2-3 minutes au nom de la DGCIP, Michel Marian, et moi-même. Je voudrais d'abord remercier les collègues qui ont monté cette journée un peu dans l'urgence, Catherine Fabreguette, Khadija Adib et Marion Doubert. Vous remerciez tous d'être venus et en vous souhaitant un bon retour, mais un retour studieux, puisqu'il va falloir peut-être démultiplier ce que nous avons fait. Albert-Claude parlait de séminaires régionaux, pourquoi pas, même si le temps nous est compté. Moi, je peux vous proposer les quelques pistes suivantes, certaines plus complètes que d'autres. La première chose, c'est de faire une petite synthèse des bonnes idées, des bonnes pratiques, toujours avec le critère de la reproductibilité rapide qui a été identifié. C'est une liste, mais ça peut toujours donner un certain nombre d'idées, et notamment si nous pouvions faire parvenir cette synthèse au président et directeur d'établissement, ce serait une bonne chose. Le fait de créer une rubrique sur le site Université Numérique pour pouvoir donner un accès à tous les travaux qui permettent de préciser un certain nombre de choses, et je pense à la feuille de route de Montpellier, au TIPOD de l'Université de Toulouse-le-Mirail, et Nice aussi a fait des choses. Enfin bon, il y a sûrement plein de choses qui ont été identifiées aujourd'hui et d'autres choses que nous avons eues dans les comptes rendus des établissements. Donc tout ça sera mis sur Université Numérique avec un accès sur vos ressources d'établissement pour présenter cela. Il y a aussi toute la partie didacticielle, tutorielle. Nous avons commandé l'équipe d'IUT en ligne la création de petits modules courts et très simples pour prendre en main Moodle quand on n'y connaît rien. En gros, 10 leçons pour appréhender Moodle pour les nuls, en quelque sorte. Ce sera prêt d'ici une dizaine de jours. Ce sera mis en ligne dans cette rubrique. Et je suis sûr qu'il y a aussi plein d'autres bonnes idées tutorielles, didacticielles que vous pourriez nous signaler et dont nous donnerions connaissance sur ce site. Je propose aussi que le directeur général de l'enseignement supérieur, c'est une suggestion que nous allons lui faire, voire même le président de la CPU, adresse un courrier à l'ensemble des responsables, directeurs et présidents d'établissement pour suggérer 3 choses. La première, c'est d'inciter, je retiens ce qui a été dit par nos amis lyonnais tout à l'heure, d'inciter les enseignants à se former très rapidement. Il y a bien sûr des choses qui sont en place, mais je pense que ça ne coûte pas grand-chose de donner cette préconisation, sans parler d'injonction, pour qu'il y ait très vite des sessions de formation et pour que les enseignants soient incités à y aller. Je pense qu'on peut aussi demander au président d'accélérer la mise en ligne de cours ou bien d'activités pédagogiques si le Conseil des enseignements de la vie universitaire choisit plutôt une option à l'autre. Évidemment, c'est la liberté des établissements, mais il y a aussi là un fort pouvoir d'incitation qui vient des présidents. Et la troisième chose qui peut être soulignée, c'est qu'on les incite à ouvrir le maximum leurs ressources qui seraient validées, pour lesquelles la question des droits serait à peu près réglée, etc. Donc c'est aussi une demande que nous pouvons faire. Nous allons, comme on l'a dit souvent, revisiter notre portail université numérique pour pouvoir donner un accès par grande thématique, une trentaine de thématiques universitaires, pour les étudiants, puis aussi pour les collègues qui souhaiteraient obtenir des ressources pour faire travailler leurs étudiants. Donc c'est vers la fin du mois de septembre, début octobre, selon la commande de la ministre, que nous mettrons en ligne ce portail université numérique rénové. Je pense aussi que nous pouvons imaginer pour l'avenir d'autres dispositifs. Je retiens la suggestion de Mme Mongenet tout à l'heure. Les UNR, c'est un niveau régional. On peut peut-être maintenant regarder, vu que la couverture nationale est complète des UNR, peut-être encore des petits efforts peut-être à Paris, mais en tout cas travailler à des dispositifs nationaux sur tout ce qui est plateforme, outils pédagogiques. On est beaucoup resté sur les infrastructures et les services. Services pédagogiques, maintenant, doivent être un petit peu plus développés dans un esprit de mutualisation nationale. Voilà les quelques éléments que je retiens de cette journée. Je ferai comme notre ami de Grenoble 3 tout à l'heure. C'est vrai que l'expérience de Toulouse, le Mirail, est extrêmement intéressante. Mais j'ai cité d'autres établissements, je crois Montpellier et Nice. Ça peut être intéressant, là, c'est une suggestion que je vous fais, de porter à la connaissance d'une façon ou d'une autre un peu toutes les caractéristiques de ce dispositif qui pourrait être adapté, repris, amélioré, pourquoi pas, dans d'autres établissements. Donc là, la balle est un peu dans votre camp pour diffuser cette bonne pratique dont vous êtes les propriétaires et les auteurs, entre guillemets. Voilà, en tout cas, merci bien à tous et bon retour.
Merci.